Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les vraies voix jusqu'à 20h sur Sud Radio avec aujourd'hui, il est en train de s'installer, il met des coups aux chaises, au studio.
Non, je suis prêt.
Ah non, vous n'êtes même pas assis.
Il est désagréable.
Avec la pensée.
Ça se passe au micro. Parce que personne ne vous entend, alors ça limite l'intérêt de vos propos.
Ah oui.
Si on vous entend pas. Donc Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur du livre « Libre propos d'un inclassable voilà », publié à la Nouvelle Librairie. C'est nouveau, ça vient de sortir.
Très bien.
Ouais. Françoise Degois, vous avez entendu sa voix.
Très bien.
Éditorialiste Sud Radio et
très
LCI.
Bien. Très bien.
Vous pouvez répéter.
Non mais très bien. Non mais c'était très bien.
C'était très mauvais.
Vous là-bas. En fait, c'était mauvais, c'était très mauvais. Voilà, je vais faire ça avec vous. Louis de Funès, la grande
vadrouille. C'est ça, dans l'Opéra de Paris, avec tous les musiciens, etc.
Quand tu es en train de dire, j'ai une conception très personnelle de l'œuvre.
C'est sûr. Et on attend Pierre Licia, conseiller régional d'Île-de-France du Mouvement Libre, mais il n'est pas arrivé. Alors, excusez-moi, on va risque de commencer sans
lui. On va avoir droit au couplet, c'est à cause d'Hidalgo, la circulation, les embouteillages. Non, parce que ça, c'est le grand truc maintenant. Dans toutes les émissions de télé maintenant, quand les gens sont en retard. Oui, mais tout est Hidalgo d'ailleurs.
Oui, dira-t-elle que c'est à cause du vélo.
Tout est Hidalgo.
De son vélo.
Oui, parce qu'il vient en vélo. Alors, pour peu qu'il. Ah, bah le voilà quand. Ah, bah, le voilà, Pierre Licia qui arrive. C'est ça le principe des stars, c'est se faire attendre. Donc, conseiller régional d'Île-de-France du Mouvement Libre, bonjour.
Mais j'arrive au bon moment.
Non, ouais. Vous arrivez avec 5 minutes de retard.
J'arrive au moment où c'est mon tour.
Nos grands débats à 17h30. Vous avez vu que l'Algérie a interdit aux avions militaires français qui vont au Sahel de survoler son territoire, son espace aérien, à l'aller et au retour, suite aux propos d'Emmanuel Macron qui a qualifié l'Algérie de système politico-militaire algérien fatigué. Et Macron a-t-il eu raison d'utiliser ces termes? À 18h30, notre grand débat, Éric Zemmour a été comparé deux fois un virus ce week-end, une fois par Laurent Ruquier et une fois par Jean-Marc Borello, le numéro 2 de La République En Marche. Zemmour comparé à un virus, politiciens et médias ont-ils tous peur de lui? Vous savez comment nous joindre, comment réagir, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. En forme les vraies voix?
Ah oui,
en pleine forme.
Très.
Allez, à votre avis, je suis de bonne humeur ce lundi ou pas?
Oui, de toute façon.
Moi je dirais indigné.
Oui, je suis indigné. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi.
Si vous voulez à ce point le bien des gens, pourquoi, bon sang, vous n'arrivez pas à vous mettre à 4 ou à 5 autour d'une table et à avoir un programme commun? On met chacun ses quatre égaux sous un mouchoir et vouloir le bien des gens, c'est s'entendre entre 4 ou 5 personnes intelligentes. 26% vous faites, 26%. Là, vous y serez au deuxième tour, vous ou un autre. Faut que chaque parti arrête de vouloir penser uniquement à son parti. Si vraiment vous pensez aux gens, alors faut vous entendre avec tous les autres. Ça, c'est le cri que j'avais envie de vous pousser ce soir.
Alors, c'était On est en direct samedi soir sur le service public, sur France Télévisions. Et je trouve choquant, alors on a entendu Laurent Ruquier, qu'il y avait aussi Léa Salamé, qu'il fasse un coaching politique à Jean-Luc Mélenchon en disant, voilà, il faut que la gauche s'unisse pour que les gens vivent mieux, etc. Alors, ça fait quand même un certain, comme on dit aujourd'hui, c'est pas très français, bad buzz sur les réseaux sociaux, mais je ne vois pas en quoi des animateurs vont expliquer à un homme politique ce qu'il doit faire pour la prochaine présidentielle. J'imagine, si jamais deux animateurs de télévision avaient dit, il faut que le Rassemblement National, Dupont, Aignan, Zemmour, etc. s'unissent pour enfin faire l'union de la droite que tout le monde attend. Tout le monde aurait crié au scandale. Alors, j'aimerais bien que sur le service public qui est payé par nos impôts, faut-il le rappeler, le mot « neutralité » rentre dans le dictionnaire. Philippe Bilger.
Vous avez totalement raison, Philippe. Je n'ai pas vu l'émission. Et surtout, se voir donner des conseils politiques, même à gauche, même à un Mélenchon qui
a moyennement apprécié,
qui n'a pas que des défauts, objectivement, et qui, sur le plan de la parole et de l'intelligence, les domine, que ce soit Léa Salamé et Laurent Ruquier qui donnent des conseils en stratégie politique, ça m'amuse beaucoup.
Françoise Degois.
Moi, je, écoutez, je reste un peu pantoise parce que c'est pas leur
Françoise,
travail.
Vous restez Françoise.
Oui, oui, je, c'est pas leur travail. Et puis par ailleurs, je, au-delà de, je vois bien toujours le même argument. Je lisais mon camarade Gilles William Golnaden en train de taper sur la vie. On s'en fout du service public, c'est pas le sujet. C'est juste la question. Et quelle est votre place? Voilà. Est-ce que Laurent Ruquier, service public ou pas, est-ce que c'est sa place de faire ça? Oui, non. Bah, si c'est sa place, alors il l'assume et il devient éditorialiste. Mais il peut pas être animateur. Moi, j'ai été beaucoup plus choquée par la façon dont Léa Salamé a traité Jean-Luc Mélenchon.
Oui,
c'était d'une indignité totale. C'était d'une indignité totale. Léa Salamé, il faut vraiment qu'elle arrête. Hein. Léa Salamé, c'est la compagne de Raphaël Glucksmann. Je ne sais pas qu'est-ce qui oriente le choix ou pas. Je pense que ça ne va pas du tout. Sa manière de taper en permanence sur Mélenchon, c'est pas possible. J'ai l'impression d'entendre la vitrine du printemps républicain. On peut pas faire ça. On ne peut pas faire
qu'est-ce
ça. On peut pas s'amuser en permanence à donner des leçons de gauche morale ou pas morale. Alors, il y a les bien élevés, il y a les mal élevés. Zut de zut, moi, je suis une électrice de gauche, enfin, je suis une enfant en génération Mitterrand. Je pense que je suis vraiment au point, au cœur de la social-démocratie, c'est-à-dire pas à droite, mais pas complètement à l'extrême gauche. Vous nous faites chier. Et non seulement vous nous emmerdez l'ensemble des candidats, mais vous nous emmerdez l'ensemble des animateurs de gauche politiquement correcte. J'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol d'entendre taper sur Mélenchon. J'en ai ras-le-bol qu'on se fout de la gueule en permanence d'Anne Hidalgo sur tout sujet. J'en ai marre. Cette facilité est insupportable. Voilà, point.
Ça, c'est...
Quelle philippique.
Non, mais c'est vrai, c'est, tu parles d'une philippique avec des gros mots. J'aimerais la faire en
non,
mais c'est insupportable.
Non,
mais vous, je te jure, Philippe, comprends. Moi, je suis le marais de gauche. Je veux dire, le marais au sens, le cœur. On est des millions comme moi. J'en peux plus d'entendre bâcher Mélenchon. J'en peux plus d'entendre se faire foutre de la gueule de Anne Hidalgo. J'en peux plus d'entendre les gens se foutre des écologistes. J'en peux plus de ce politiquement correct, de gauche comme de droite, d'animateur, de bien-pensance. La bien-pensance, elle est plus là où on en croit. Il y en a marre.
Pierre Licia.
Je ne sais pas si les gens se fichent de la tête des uns et des autres parce qu'ils donnent le bâton pour se faire battre ou parce que véritablement les journalistes s'amusent à se taper
mais
dessus.
Mais bien sûr,
bon, bref, c'est un grand débat. Moi, pour en revenir, et en tout cas, je salue cette colère saine, comme disait l'autre.
Non, parce qu'elle fait du bien. Ma chère amie Ségolène.
Elle fait du bien, finalement, cette colère.
Oui, bien
il y a
sûr.
Il y a trois choses, rapidement, parce que j'imagine que rapidement. D'abord, sur la neutralité des journalistes. Franchement, ça fait bien longtemps que je ne crois plus en la neutralité des journalistes. Ça fait bien longtemps. Donc moi, je préférais un système où finalement, tous les journalistes disent en toute transparence, nous, on est plutôt ça,
bravo.
On est plutôt ci, on est plutôt ça.
Exact.
Plutôt que se retrancher derrière la déontologie et la neutralité du journalisme pour finalement faire passer des messages. Et en général, qui sont totalement insidieux dans l'esprit des gens. Bon, bref, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur les éléments rhétoriques utilisé par Laurent Ruquier, de dire « La gauche, unissez-vous si vous voulez faire le bien des gens ». Sous-entendu, quoi
la droite fait le mal des gens, bien sûr.
La gauche, c'est le bien, c'est l'argument d'autorité.
Oui,
la gauche, c'est le bien, la droite, c'est le mal.
Mais c'est nul,
quelle pauvreté idéologique pour en arriver là. Et la dernière chose, mais si vous me le permettez, qui est très cocasse quand même, parce que ça ne vient pas de n'importe qui, cette diatribe, en tout cas cette envolée de Laurent Ruquier sur l'union de la gauche, ça vient pas de n'importe qui, ça vient de celui qui précisément a propulsé Éric Zemmour sur le devant de la scène médiatique nationale en le plaçant pendant plusieurs mois, plusieurs saisons d'affilée
à l'antenne
d'une grande chaîne de télévision d'ailleurs publique,
France
à une heure de grande écoute et qui lui a donné quartier libre pendant des années. Donc je veux dire, je trouve que ça manque pas de culot de la part de Laurent Ruquier d'aujourd'hui œuvrer et piapiailler sur l'union de la gauche alors que c'est lui qui a quand même ouvert les portes du débat médiatique et public à Éric Zemmour.
Ce que vous avez dit sur le premier point, c'est très vrai et ça n'empêche pas le journaliste qui dit ce qu'il est et ce qu'il pense d'être honnête. Il faut distinguer ça radicalement de l'objectivité.
Dans le micro,
je suis d'accord avec vous.
Mais ils le sont.
Mais honnêtement,
par définition,
c'est ce que j'explique moi à mes élèves de l'école journaliste. Je leur dis l'objectivité, ça n'existe pas. La presse française est une presse engagée depuis la
1848,
Révolution. C'est une presse qui est engagée. Quand vous achetez le Figaro, vous savez ce que vous lisez. Quand vous achetez Libé, vous savez ce que vous lisez. L'Humanité, c'est pareil. C'est la tradition française. Depuis le Père Duchesne, on va commencer par là. Tous les hébertistes, voilà, vous saviez que vous achetiez à la Révolution française le Père Duchesne, et ben on appelait à la décapitation. l'information tous les matins, tous les soirs, etc. Vous savez que ce que vous achetez, la presse française, elle est ainsi faite. J'en ai marre, et je suis d'accord avec Pierre, de ces fauderches qui passent leur journée à nous donner des leçons de déontologie. Beaucoup de journalistes de gauche, d'ailleurs, qui sont les premiers, je ne vais pas donner leur nom, mais je les connais par cœur, qui sont les premiers à gratter pour aller manger et pour aller faire des dîners, des déjeuners, d'être toujours du bon côté du manche, vous comprenez ? On est sarkozyste avec Sarko, on est hollandais avec Hollande, on est macroniste avec Macron, on sera le péniste avec Le Pen, pareil. Je veux dire, je suis très sévère avec ça. Il y en a ras-le-bol. Les types qui vous donnent des leçons toute la journée. Moi, quand je suis partie de travailler avec Ségolène, j'ai eu l'honnêteté de dire, écoutez, voilà, moi je deviens la conseillère spéciale, c'est mes convictions. Le tout un tas de gens, je pense à Jean-Pierre Cabat, je suis passé avant lui, mais eux, ils ont passé leur vie, si vous voulez, à faire supposément des interviews sans concession, et le soir, on va tous dîner dans les 3 étoiles Michelin avec Mitterrand. Merde.
C'était dit, c'était Françoise Degois qui est dans une forme olympique.
Votre indignation est très
bon. Mon indignation a été transférée à Françoise Degois.
Non, non, c'est pas vrai, je dis des gros mots. Je m'excuse, ma mère qui m'écoute. Maman, pardonne-moi, tu m'as pas élevée comme ça, je sais.
Madame Degois, le bigourdon aime rentrer fort en mêlée. Vous savez ce que c'est. Vous qui devez être supportrice du FC Lourdes, qui, contrairement à ce que son nom indique, n'est pas un club de football.
Et a été champion de France, je vous rappelle, avec l'immense Jean Prat.
Et de grands joueurs,
s'il vous plaît. 8 fois,
absolument. Vous êtes bien sûr Sud Radio, 17h14, les vraies voix qui commencent la semaine en trombe. On va commencer avec le tour de table de l'actualité de Françoise Degois, et je dois dire que son tour de table de l'actualité, il est franchement tout bon. On se retrouve tout de suite. I'm just sitting here beating on my trumpet with all these promises you left for me.
Les vraies voix Sud Radio, 17h20, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Pierre Licia. Et pour lancer le tour de table de Françoise Degois, on va le lancer en chanson, un chanteur qui va faire plaisir à Pierre Licia.
La vie commence à 60 ans quand on la connaît.
Tino Rossi, il est corse. Et vous voulez parler, non pas de quelqu'un de 60 ans.
Non mais vous vous rendez compte comment vous avez le cerveau fait, vous ?
C'est-à-dire, non, vous n'avez pas Tino Rossi pouvez...
Non, mais d'accord, mais Tino Rossi, Pierre Licia, c'est quand même pas la même.
Ils sont corse tous les deux, excusez-moi.
Mais non, mais d'accord, mais enfin bon, ils sont corse tous les deux, est-ce que c'est une raison valable? Ils sont corse tous les deux, voilà, moi je suis.
Je pense qu'il faut réhabiliter Tino Rossi.
Moi je suis né à Tarbes comme Yvonne Turner, j'aime pas forcément l'accordéon non plus. Enfin, vous êtes un peu bizarre.
Hein, et Napoléon aussi.
Mais Napoléon aussi est corse.
Moi j'aime beaucoup, j'assume, j'aime beaucoup.
Alors,
moi j'aime bien aussi Tino Rossi, mais enfin quand même, on comprend même pas.
Non, mais il aurait très bien pu dire aussi. Vu votre regard, j'ai l'impression qu'on est des gros ringards musicaux quand on dit qu'on aime Tino Rossi.
Tino Rossi comme chanteur ça va, mais comme acteur c'est une catastrophe. Hein. Là il faut le rappeler.
Bah on le connaît plus comme chanteur que comme acteur, désolé. Hein.
Ah,
comme Johnny on connaît plus comme chanteur que comme acteur. Oui, alors mais... vous voulez parler non pas de la vie commence à 60 ans, mais à 80 ans.
Oui c'est incroyable, ça m'a beaucoup frappé ce matin pour des raisons personnelles. J'étais au palais de justice pour la prestation de serment parce que vous savez que voilà les avocats quand ils sont diplômés prêtent serment ou bien des avocats qui s'installent à Paris prêtent serment. Donc c'était formidable, c'était la première prestation, mais Philippe Bilger connaît ça, dans cette sublime chambre, de la première chambre de la cour d'appel du palais de justice, le vieux, hein, pas le... Et qu'est-ce qu'il y avait dans
celui
cette promotion
de l'île de la cité, pas
et
de,
qu'est-ce qu'il y avait. Alors, c'était très impressionnant, parce que c'est juste à côté du procès Abdeslam, oui. Alors là, vous passez, vous zigzaguez entre les cohortes de CRS, très impressionnant. Et qui prêtait serment à 80 ans? Eh ben, Jacques Toubon. Et ça m'a vraiment... touché profondément de voir que voilà, il a 80 ans, il a une carrière absolument gigantesque, enfin je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, en tout cas dans la vie publique, que le parcours de Jacques Toubon. Moi je l'ai aimé évidemment parce que ce type était ce que nous détestions quand nous étions jeunes, ce RPR dur, et en réalité cet homme est devenu le défenseur des droits, il est devenu celui qui a dénoncé les violences policières, parce que c'est le mot qu'il a utilisé en tant que défenseur des droits. Et à 80 ans, le voir s'avancer et dire devant le premier président, je jure donc de servir le métier d'avocat avec honneur et probité, ça m'a vraiment ému et je tenais à le dire, c'est une révolution personnelle de cet homme qui me plaît beaucoup.
Puis ça vous a ému parce que c'est un lieu qu'a fréquenté Philippe Bilger.
Mais j'ai pensé non-stop à Philippe parce que je me suis dit, mais alors il faut que je voie Philippe comme je fais les vraies voix, il faut que je lui demande quelle est l'histoire de cette salle,
mais
parce que cette salle est absolument magnifique.
Je suis totalement ignorant, mais Jacques, on en a un peu parlé avec Françoise en arrivant, Jacques Toubon, j'ai toujours senti quand il était, pour aller vite, dans le camp de la droite, qu'il était une
déviant.
Dans le camp du mal.
Qu'il était dans une sorte d'incongruité.
Il sentait, lui, dans le camp de la droite, que c'était un déviant, c'était un crypto-communiste.
Absolument, mais je n'irai pas jusque-là. Il avait été un garde des sceaux discutable.
Ah oui,
il introduisait toujours dans la pensée conservatrice des petits poisons discutables. Mais au fond, quand il est passé à gauche, je vais vite, hein, je serai plus nuancé, défenseur des droits.
Il a été magnifique.
Et puis ensuite, il passe au barreau à 80, c'est remarquable pour sa destinée personnelle, mais je crois qu'il est cohérent par rapport à sa ligne qui a toujours été celle-là.
Non, mais ça me plaît beaucoup, Philippe, parce que vous n'avez pas évidemment 80 ans, mais cette troisième partie de la vie, continuer à se projeter, mais je trouve ça absolument génial. Moi, ça me... Et d'ailleurs, le premier président a dit, bon, il y a beaucoup d'avocats, des jeunes, des juniors qui arrivent, etc. Et il y a le plus jeune d'entre eux, alors, qui c'était, on se disait, le môme, il a eu son barreau à 21 ans. Et là, le Jacques Toubon, alors là, vraiment... Et ça m'a beaucoup plu, cette idée de... peut-être simpliste, moi, de la jeunesse du cœur.
Il n'y a pas d'autre moyen pour oublier qu'on va mourir, hein.
Moi, si vous me le permettez, un petit mot d'esprit, mais avoir le barreau à 80 ans,
je savais. Au moment où je l'ai dit, je savais qu'il y avait quelqu'un autour de la table. Je pensais pas que ça serait toi.
Bah, vous pensez
j'étais
que
sûr que c'était évidemment.
Oh, mais c'est quoi cette réputation que vous faites,
c'est moi qui l'a fait. Vous êtes assez grand pour vous en charger.
Mais François, s'il l'avait fait, il aurait progressé.
Alors, sans transition, du coup, Philippe, sans transition.
Mais c'est quoi ici? C'est des grosses têtes ou quoi? Parce que non, on n'avait pas les grosses têtes.
C'est
pas les grosses têtes au niveau de l'intelligence, Pierre ça Lysia. C'est sûr. Hein. On est loin, quoi.
Quelle est donc votre question? Pardon, Jean-Pierre, mais...
Devenir avocat à 80 ans, c'est comme un bel âge.
Jacques
Toubon. Oui, non, mais ça,
est-ce que
ça
Jacques
Toubon
était un déviant?
D'ailleurs, sur le crypto-communisme, la droite gaulliste a toujours été finalement assez proche des communistes. Il n'y a pas besoin de remonter à De Gaulle et aux années résistance pour le savoir. Moi, je vois même de façon quotidienne au Conseil régional d'Île-de-France, les communistes sont radicalement opposés à Valérie Pécresse et à notre majorité, mais nous avons des points d'accord et en tout cas des objectifs communs. Des moyens d'y parvenir différents, mais des objectifs commun, ce qui n'est pas le cas avec les autres groupes de gauche.
Oui, c'est intéressant.
Et ça va être l'heure du tour de table de Pierre Lysia. Alors c'est marrant parce qu'il veut nous parler du 6e métro.
Sans transition.
Vous connaissez le prix alors.
Sans transition.
Qui va disparaître.
Le ticket de métro va disparaître, ouais. Je ne sais pas si vous étiez au courant.
Île-de-France Mobilité, oui.
Tout à fait. Alors, bon, c'est quelque chose qui
il est
déjà
temps,
qui est dans
vous
les cartons.
Que, par exemple, à Rome, vous n'avez plus un seul ticket de métro.
Mais
hein, vous faites tout par Internet. Hein.
Permettez-moi d'avoir un petit instant nostalgie réactionnaire, tino-rossiste, n'est-ce pas? Pour m'émouvoir. Pour m'émouvoir de la disparition d'un monument du patrimoine, j'allais dire, non seulement parisien, francilien, mais français aussi, qui est le ticket de métro. Ça fait 120 ans.
Le point fleur des lilas et autres.
120 ans d'existence, le ticket de métro. Et alors, il faut savoir que ça a quand même un coût écologique, le ticket de métro. Parce que c'est 550 millions par an qui sont édités.
550
millions de tickets de métro. Et alors, au mieux, ils terminent dans vos poches et ils finissent dans les...
Ou dans la machine à laver.
Dans la machine à laver. Et on se retrouve avec des confettis dans les poches de jeans. Et malheureusement, ils se retrouvent souvent par terre. Et un ticket de métro, c'est un an.
Pour se désagréger.
Absolument.
Compter leurs difficultés, vous avez vu depuis le nouveau fournisseur, vous avez vu qu'il se démagnétise complètement.
Alors, vous les mettez dans une poche de téléphone portable.
C'est terminé, vous n'arrivez jamais à Roissy, vous n'arrivez jamais à Orlyval.
Il y a 5 millions de tickets qui se démagnétisent chaque année. 5 millions. Donc, en fait,
ça fait 1%.
Ça fait un coût, c'est ça, ça fait un coût supplémentaire. Non, mais c'est très intéressant. Cette histoire du ticket de métro. Et alors, figurez-vous, autre chiffre intéressant, sur un carnet de 10 tickets, en moyenne, on en perd un.
Ah ouais, Philippe Bilger, Françoise de Gaulle, vous allez être nostalgique du ticket de métro?
Moi, il y a longtemps que je ne le prends plus.
Non,
j'en
ai toujours quelques-uns au cas où je perdrais le Navigo.
Ah oui. Non, moi je circule en scooter, mais c'est vrai que j'aime bien le prendre pour aller le Orlyval, c'est formidable. Pour aller à Orly, c'est vachement plus.
Et puis c'est rapide. Hein,
c'est hyper plus rapide que les taxis.
Mais
c'est vrai que.
Comment vont faire les touristes?
Comment est-ce qu'on le remplace? Non, mais rassurez-vous, vous savez, c'est comme tout ce que font toutes les grandes villes européennes. Et même
à Toulouse, excusez-moi, on est encore au ticket de métro, mais c'est 10 passages par ticket. Vous avez le ticket à un passage et le ticket à 10 passages.
Oui, mais comme en Grande-Bretagne, comme à Londres, tu sais, c'est un peu, c'est vraiment la galère.
Le modèle, vous allez avoir.
Vous passez 10 fois avec le même ticket, bus, tram, métro.
Oui, à Londres,
vous avez droit à 10 voyages.
C'est un peu galère, hein. Il faut pas le paumer, votre ticket, Philippe. Moi, la première fois, je l'ai jeté comme à Paris.
Surtout le prix du métro à Londres. Et comment ça va se passer?
Non, en fait, vous avez plusieurs solutions. Alors, soit vous passez directement sur votre smartphone et donc vous avez vos tickets votre passe sur le smartphone. Soit vous avez le Navigo annuel, mensuel, qui est classique. Soit vous avez le Navigo Easy, qui est en fait une carte que vous achetez 2 euros et en fait vous payez à la consommation. Et ça, c'est quand même très très bien.
C'est vachement bien ça.
Plutôt que d'avoir des tickets, de jamais savoir où on achetait, de jamais savoir de démagnétiser, etc., vous avez un pass, vous l'utilisez, vous
ça
payez.
Sera
vous,
quand, ça sera quand ça? Ça sera quand?
Mais c'est en cours. D'ores et déjà, vous pouvez avoir ces solutions de ces facilités de paiement. En plus, le ticket à l'unité est moins cher. Le ticket à l'unité est moins cher que le.
Qu'est-ce que vous faites avec le Easy?
Vous avez très court. Vous avez une carte.
Non, mais c'est important.
Vous avez une carte Navigo Easy, une carte. Ouais. 2 euros, vous achetez dans n'importe quel guichet.
Et que vous rechargez.
Et non, même pas forcément. Vous passez. Un jour, vous prenez le métro, vous passez, et bien à la fin du mois, vous êtes débité du ticket de métro. Sachant que le ticket de métro, non seulement il est moins cher à l'unité,
mais
en plus,
c'est génial.
Il
donc
vous
en fait,
permet...
vous mettez votre RIB, etc. Vous donnez toutes
absolument.
Vos coordonnées.
Et il vous permet, de faire plusieurs, de faire des correspondances et de ne pas payer à chaque fois de votre ticket. C'est une économie de pouvoir d'achat pour
les. Oui, et puis c'est une économie pour ne pas se prendre la tête pour savoir est-ce que je dois, quelle est la zone que je dois prendre pour aller à Roissy, etc.
C'est débité a posteriori.
Pierre, fais une idée de qui?
Madame Pécresse.
Vous n'oubliez jamais.
C'était l'info du jour. La
non, mais
disparition.
C'est hyper important pour une fois qu'on dit des choses intelligentes dans cette émission et concrètes.
C'était
tu
l'info
vois
du jour, la disparition intégrale du ticket de métro.
Si on t'attend,
vous êtes bien sur Sud Radio, 17h27, dans quelques instants, notre premier débat. Macron a-t-il raison de parler d'un système politico-militaire algérien fatigué? Vous êtes 67,7% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. On se retrouve tout de suite.
Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de saut métier, moi je fais des trous dans des billets.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Pierre Licia.
Algérie, écrasée par l'azur.
Ah, c'est beau.
Serge Lama.
Je sais, j'adore Serge Lama.
Très belle voix.
Et quelle interprétation, quelle incarnation.
Bien du Sud-Ouest.
Je l'aime.
Les tensions montent entre la France et l'Algérie. Après la décision de la France de diminuer de 50% le nombre de visas accordés aux ressortissants algériens, Emmanuel Macron a déclaré jeudi 30 septembre, lors d'une rencontre avec des jeunes sur la guerre d'Algérie, que le pays, je cite, s'était construit depuis son indépendance sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire fatigué. En réponse, l'Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris samedi et a interdit le survol de son territoire aux avions militaires français qui vont et viennent de et vers le Sahel. D'où notre premier débat. Macron a-t-il raison de parler d'un système politico-militaire algérien fatigué? Et pour le moment, vous êtes 68,6% à dire oui sur Twitter. Vous voulez réagir? Le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. Avec nous, Frédéric Ancel, géopolitologue, maître de conférences à Sciences Po Paris et professeur à la Paris School of Business, co-auteur du livre « Atlas des frontières » publié aux éditions Autrement. Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que finalement on parle vrai sur Sud Radio? Sur le fond, Macron ne dit pas vrai. Depuis 60 ans, l'Algérie est un régime militaire qui fait porter tous ses échecs sur la France avec un ressentiment permanent.
Mais oui, la réponse est oui. La réponse est oui, ce n'est pas vrai que pour le régime algérien, mais c'est vrai pour le régime algérien en particulier peut-être. La rente mémorielle qu'a évoqué le président de la République, c'est un concept de science politique, il n'y a rien de particulièrement nouveau là-dessus, mais cette rente mémorielle, elle est jouée d'ailleurs avec d'autant plus de cynisme que l'Algérie est à l'origine un État, je ne parle pas du pays, je parle de l'État, est un État potentiellement très riche. Je rappelle que c'est 2% des réserves mondiales du pétrole et 2% des réserves de gazières, absolument, qu'il n'y avait pas de surpopulation, et d'ailleurs qu'il n'y a toujours pas de surpopulation sur l'ensemble, en tout cas, de l'État, contrairement à d'autres États d'Afrique ou du monde arabe, et que, par ailleurs, il dispose d'une rente stratégique favorable, parce que, franchement, personne ne va sérieusement attaquer l'Algérie dans la région. Donc, de ce point de vue-là, l'impéritie du pouvoir, et ça très franchement c'est reconnu par le monde entier, y compris et surtout peut-être même par la population algérienne qui à plusieurs reprises depuis les années 80 avec les émeutes du pain a manifesté, et encore ces derniers mois, contre ce régime, eh bien oui, effectivement, ce régime tente de cacher son impéritie derrière cette rente mémorielle en pointant systématiquement le doigt sur la France, coupable de ou responsable de tous les maux qui assaillent le pays, et je pense qu'encore une fois, il avait parfaitement raison.
Philippe Bilger.
Frédéric Ancel, j'ai approuvé la déclaration du président de la République, mais je crois que, et j'aimerais votre avis là-dessus, je voudrais la situer dans un ensemble de déclarations et de propos qui montrent que c'est tout de même un président qui est de manière très contrastée, un peu maladroit dans ses déclarations. En Algérie, il parle du crime contre l'humanité qu'est la colonisation. Le lendemain, il se rétracte. Et de mon point de vue, ça n'est pas une erreur dont il se repent.
Il parle des harkis il y a quelques jours.
Voilà, les harkis, c'est à chaque fois, dans des endroits différents, des déclarations qui peuvent apparaître contradictoires, non pas la volonté de couvrir tout le champ intellectuel et politique du sujet qu'il traite, mais une sorte de succession d'états intellectuels qui, à force entre démagogie et conviction, finissent par troubler peut-être le cerveau présidentiel lui-même. Qu'en pensez-vous ?
Alors, est-ce que vous considérez, mais bien sûr que ce n'est pas le cas, avec une certaine peut-être naïveté ou une certaine candeur, qu'on n'est pas là aussi dans une dimension politique ? Vous savez, les questions mémorielles sont, et on l'a vu encore il y a quelques mois de cela, avec le Rwanda, où je pense d'ailleurs que pour le coup Emmanuel Macron a été, à mon avis, parfaitement remarquable, et qu'il fallait enfin y aller. Mais enfin, quand on regarde, non pas l'envers du décor, mais l'autre dimension, mais qui n'est jamais très éloignée, c'est-à-dire la politique et la diplomatique, eh bien on constate qu'il y avait manifestement pour la France aussi, pas seulement, mais aussi un intérêt à le faire et à dire ce qui a été dit. Eh bien, aujourd'hui, avec l'Algérie, vous avez raison, en tout cas, sur un point, c'est qu'il y a une contradiction avec ce qu'il avait dit sur colonisation, crime contre l'humanité, et c'était vrai que c'était, on est dans un contexte particulier. Mais après tout, le contexte strictement politique, et je ne veux pas dire politicien, politique au bon sens du terme, il a changé. Et par ailleurs, j'ajoute un dernier point, si vous dites des choses, si vous faites des choses aussi, qui concernent aussi le Maroc et la Tunisie, et vous voyez où je veux en venir avec ces questions de visa, qui ont été aussi touchés par la France sur les visas, il faut aussi peut-être, quelque part, donner un petit coup de canif à l'Algérie pour ne pas laisser croire aux autres États de la région que décidément, qu'il y a un déséquilibre. Je pense que tout cela est subtilement établi. Je ne vous dis pas que c'est juste. Je vous dis qu'on est aussi dans une dimension qui n'est pas seulement éthique ou mémorielle ou morale, mais dans une dimension aussi politique lorsqu'on parle de mémoire.
Françoise de Goix.
Oui, alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Je comprends très bien votre analyse, Frédéric, mais je pense que ça ne se fait pas. Bien sûr qu'il peut le dire, mais il n'a pas le droit de le dire. Dans l'état actuel des choses, il n'a pas le droit de le dire. Pas plus qu'il n'a le droit de mettre en scène ce simili bras de fer avec le Maroc, la Tunisie sur les visas, parce qu'on sait très bien que, d'abord, on ne sait pas qu'est-ce que ça donnera comme des résultats, c'est du déclaratif, ok ? Le résultat, profondément, c'est qu'on se fâche, on humilie publiquement, alors je veux bien qu'on ait des rapports complexes, on a des rapports complexes avec le Maghreb, mais ce sont aussi les pays qui sont les plus proches de nous, donc je pense que c'est une manière de faire de la diplomatie qui n'est pas bonne. Pourquoi elle n'est pas bonne ? Parce qu'elle est portée par des intérêts purement électoraux. Quand Emmanuel Macron fait savoir cela, on sait très bien qu'est-ce qu'il chasse, sur quelle terre il chasse, on sait très bien. De la même manière, quand il va en Algérie et qu'il parle de crimes contre l'humanité, on sait bien ce qu'il veut chasser comme terre. C'est ça qui ne va pas. Et moi, je rejoins Philippe Bilger là-dessus. Il est très gentil. C'est comme ces choses-là sont dites de façon extrêmement élégante. C'est de la démagogie pure. Vous ne pouvez pas le matin être dans la repentance, l'après-midi dans le crime contre l'humanité, le lendemain dans la critique du pouvoir algérien, que vous êtes vous-même, vous participez de sa consolidation également, vous participez de sa consolidation dans une hypocrisie absolument totale et générale. Vous avez besoin de l'Algérie pour lutter et pour aller au Sahel. Vous avez besoin de l'Algérie. Vous faites du business avec l'Algérie. Vous faites du business avec du Maroc. Et vous faites semblant de faire la leçon à un pouvoir que vous cajolez, vous et
c'est
vos prédécesseurs. Donc, moi, je suis pas d'accord avec vous. Je veux bien que vous soyez, que vous trouviez ça formidable. Moi, je trouve que c'est de la piètre politique. Ça n'est pas comme ça qu'on va régler nos problèmes fondamentaux avec l'Algérie.
Frédéric Ancel et après Pierre Licia.
Alors, je pense que avec l'Algérie, on a quand même un problème. Enfin, la France a un problème autre ou d'une autre nature qu'avec ses voisins tunisiens et marocains.
Bien sûr, ok, d'accord là-dessus. Nos relations sont torturées et torturantes. Je suis d'accord avec vous.
Torturantes, mais oui, mais notamment par la volonté. Et ça, je dirais que factuellement, c'est difficilement contournable. Après, on peut toujours discuter. Le débat que vous posez, il est très juste. On peut discuter de l'opportunité ou de la manière de le dire. Mais jamais le Maroc et la Tunisie n'ont joué à ce point de cette fameuse, et je reprends l'expression que tout à fait à mon
sens. Je suis d'accord. Ils n'ont aucune raison de jouer. De toute façon, voilà, c'est pas la même histoire. Voilà, c'est pas la même histoire. Le protectorat, c'est pas la colonisation. On est d'accord.
Voilà, c'est ça. Après, dernier point sur le panorama géopolitique de la région. Fondamentalement, l'Algérie a plus besoin de la France que le contraire, parce que l'Algérie, pour l'instant, n'a jamais démontré que son armée et sa police étaient capables ou avaient été capables d'éviter les attentats terroristes et même une guerre civile extraordinairement cruelle, à laquelle, entre parenthèses, n'ont pas participé que les islamistes. Hein.
Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Vous savez, voilà, j'étais en reportage en 92, voilà, après l'assassinat de Boudiaf. J'ai été en Algérie, j'ai découvert un pays exceptionnel, jeune, etc. Et évidemment que tout était extrêmement complexe. D'accord, voilà, Frédéric, là-dessus. C'est pas que les islamistes qui tuaient en Algérie. Okay.
Voilà, on est bien d'accord. Ouais. Alors après, sur le Sahel, vous voyez, aujourd'hui, taper ou faire mine de taper là où ça pourrait faire mal pour la France, je pense qu'en réalité c'est un jeu de dupes, parce que l'Algérie, face en termes de renseignement, en termes économiques, puisque pendant très longtemps, vous savez très bien aussi qu'on a acheté le gaz naturel plus cher à des niveaux plus élevés.
C'était l'accord signé en 1982 de mémoire.
Exactement, bravo. Ouais. Donc si vous voulez, sur l'ensemble de ces questions-là, et avec un Sahel qui est en train de sombrer, je vous dirais que au fond on est dans les dupes. Après, pour le reste, sur ce que vous avez dit, je pense que ça relève du débat. Ça relève du débat. On peut en discuter.
Pierre Licia.
Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et intéressantes. Moi, je ne crois pas que, pour en revenir à ce que disait Françoise tout à l'heure, je ne crois pas que Frédéric Ancel ait dit que c'était formidable.
J'aime beaucoup Frédéric Ancel. Vous n'avez pas besoin de le défendre à mes yeux. J'aime beaucoup Frédéric Ancel.
Il a dit que factuellement, ce qu'avait dit le président de la République, c'était
vrai. Tout à fait d'accord sur plein de choses.
Enfin, honnêtement, oui, je pense que Emmanuel Macron a raison quand il le dit. A-t-il droit de le penser ? Oui. Était-il judicieux de le dire quand on est président de la République et qu'en plus on a une séquence qui s'achève avec justement cette annonce sur la réduction des titres de séjour ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit au président de la République de le dire. Qu'est-ce que ça apporte de plus, si ce n'est, et là où je rejoins Françoise, si ce n'est renforcer cette rhétorique du pouvoir algérien de dire, si nous en sommes là, c'est de la faute de la France. La preuve, regardez les déclarations du président de la République qui nous insulte. Voilà, en fait, il entretient ce qu'il dénonce au final dans ces propos-là. Donc je pense que ça n'était pas judicieux, ça n'apporte strictement rien. Je ne sais pas quelles seront les conséquences sur la situation au Sahel, pour être tout à fait honnête.
Les avions vont faire un peu plus de vols, ils vont passer par la Tunisie.
Il y aura des rétorsions souterraines et des rétorsions plus subtiles.
C'est pas simplement une question de survol de territoire sur des enjeux comme cela, mais je pense que voilà, je pense que le président de la République n'était pas dans son rôle de lire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait tout à fait raison de le penser, et je pense effectivement qu'il a raison.
Frédéric Ancel, pardon.
Il va répondre à Pierre Licia aussi.
Ah oui, mais Frédéric Ancel est capable de répondre.
Il répondra aux deux
questions
à la fois, allez-y.
Non, je voulais un peu approfondir ce que j'ai dit tout à l'heure, mais très rapidement. Au fond, est-ce que vous pensez que les déclarations parfois contradictoires du président de la République relèvent d'une volonté d'honnêteté politique et intellectuelle pour aborder toutes les problématiques liées au sujet qu'il traite, ou est-ce qu'il n'y a pas derrière tout cela une espèce de démagogie qui feuillette jour après jour les opinions possibles et contradictoires des Français et éventuellement des pays où il va. Je ne parviens pas à distinguer ce qui relève de la sincérité et de la plénitude de la problématique à traiter ou ce qui relève d'une tactique finalement très démagogique.
Est-ce de la folie ou est-ce du génie?
Frédéric Ancel. Voilà,
alors là, vous posez une question maître très 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 géopolitique. Enfin, non, plus que géopolitique. Une question philosophique, y a-t-il de la sincérité en politique? Écoutez, moi, je pense que j'en voudrais 7, s'il vous plaît, comme anormal. Écoutez, je vais vous dire, moi, je pense que l'un n'est pas exclusif de l'autre. Je pense, je peux me tromper, je suis peut-être naïf, mais je pense que depuis son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron a tenté de jouer sur la toute première carte dont il pouvait jouer assez facilement, notamment vis-à-vis de tous ses prédécesseurs, c'est-à-dire sa jeunesse. Il n'a même pas eu l'occasion de faire le service militaire, et évidemment, il est trop jeune pour cela. Il n'a pas participé aux questions, à la calamiteuse affaire rwandaise, encore moins à l'Algérie, etc. Donc, du coup, je pense que l'appel ou les tentatives d'apaisement, en tout cas mémorielles, avec un certain nombre de pays, mais également avec une partie, certains pans de la population française, notamment avec les harkis, je pense que tout cela s'est frappé au coin de la sincérité. Peut-être suis-je naïf. Mais ce n'est pas exclusif du politique. C'est-à-dire que si on reprend les déclarations sur l'Algérie, je me permets quand même de rappeler à chacun d'entre vous, mais vous le savez, que fondamentalement sur le Grand Maghreb, notre allié, l'allié de la France, et sur des temps longs, comme aurait dit Fernand Braudel, ce n'est pas l'Algérie, c'est le Maroc.
Bien sûr, c'est nos vrais amis, c'est les Marocains.
Voilà, ça va de soi.
Et donc, si vous voulez, surtout que ces derniers temps, il y a eu quand même, avec le Maroc, un certain nombre de problématiques, qu'elles soient militaires, qu'elles soient liées au renseignement, au Sahara occidental, etc. Et à la fin des fins, et au-delà des bisbilles et du mémorial, on restera de toute façon aux côtés de nos amis et nos alliés marocains. Et ça, les Algériens ne le supportent pas. Donc j'ai presque envie de vous dire que de toute façon, quels que soient les mots qu'aurait employés ou qu'emploierait aujourd'hui Emmanuel Macron vis-à-vis des Algériens, et on revient au début de notre sujet, je pense de toute façon, et peut-être que je me trompe par pessimisme, que le pouvoir algérien, de toute façon, continuerait de jouer sur cette rente.
Mais est-ce qu'on a le droit?
Je vais poser une question courte à Frédéric Ancel, je vous donne la parole. Pour la gêne, c'est Pierre Lissia qui l'a évoqué. En clair, il va falloir que les avions français fassent une heure de plus de vol pour atteindre le Sahel. C'est le seul handicap que nous pose l'Algérie avec cette décision.
Ah bah oui, non mais bien sûr, non mais l'Algérie n'a strictement aucune possibilité de rétorsion vis-à-vis de la France. Enfin ça c'est pas là sur le plan
géopolitique. Je suis pas d'accord avec vous. Sur le plan du renseignement, par exemple, les militaires disent pas ça. Hein. Sur le plan du renseignement islamiste, les militaires ne disent pas ça. D'abord parce que les services de renseignement algériens sont extrêmement brillants, sont extrêmement pointus et ils ont aussi la capacité aussi d'appliquer des mesures de rétorsion. Après, moi je pense vraiment que ils n'avaient pas à se mêler de ça. Il n'avait pas à parler de cela. Ce n'est pas la peine de jeter de l'huile sur le feu pour le moment. Et puis par ailleurs, je pense que c'est aux Algériens. Nous avons tous bien compris que la caste des colonels qui se succèdent, même le peuple algérien n'en peut plus. Chaque fois que les Kabyles la ramènent, évidemment, on sait ce que ça donne. Évidemment, les émeutes en Kabylie, avec les morts, on connaît tout ça par cœur. Je veux dire par là que c'est aux Algériens aussi de régler leur problème démocratique. On est
Frédéric
d'accord.
Ancel pour conclure.
Alors, pour conclure, vous n'avez pas tort sur les renseignements algériens.
Ils sont très forts.
Vous avez raison. Mais je te tiens, tu me tiens. C'est-à-dire que l'Algérie, là aussi,
c'est vrai.
A plus, et on l'a bien vu dans les années 90, finalement a beaucoup plus à perdre en ne coopérant plus avec la France face à l'islamisme radical que la France. Et puis, tout dernier point, regardez ce qui s'est passé ces derniers mois, et notamment cet été. Au fond, est-ce que les services de renseignement marocains, quelque part, ne sont pas en train de devenir plus précieux au regard de la France que les services secrets algériens?
Vraie question, vrai sujet. Merci
c'est
beaucoup.
Pas le même niveau.
Merci beaucoup, Frédéric Ancel, géopolitologue, maître de conférences à Sciences Po Paris et professeur à la Paris School of Business, co-auteur du livre Atlas des frontières, publié chez Autrement. Verdict sur Twitter. Macron a-t-il raison de parler d'un système politico-militaire algérien fatigué? Vous êtes 66,5% à dire oui sur Twitter. Donc les vraies voix. Ça vous dirait une petite chronique présidentielle de Philippe Rossi?
Ah, oui. Oh bah, toujours.
On est là que pour ça.
C'est dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degout et Pierre Lissia. Et c'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossi. « Actualité, indiscrétion, scoop, tout savoir sur la présidentielle 2022, c'est avec Philippe Rossi et Éric Zemmour s'envole dans les sondages.
Eh oui, selon un sondage Ipsos, ça on en parle depuis plus de 24 heures, Éric Zemmour est à 15%. Il talonne donc Marine Le Pen, il dépasse Xavier Bertrand. Éric Zemmour, pas encore déclaré candidat, s'installe comme le troisième homme de la campagne présidentielle. Eh oui, bah c'est ce que doit certainement penser Éric Zemmour, qui d'ailleurs a
Plastique
donné...
Bertrand, il n'a pas de lien avec Xavier.
Non.
Ah bon,
non,
d'accord,
non.
C'est une question.
Zemmour qui a donné une conférence pour faire la promotion de son livre, c'était ce week-end au Grand Palais de Lille. Éric Zemmour qui a rassemblé 1500 personnes, enfin, une conférence, non, une conférence sur le papier, car en fait c'était tout simplement un meeting, écoutez. Eh oui, Zemmour président, lancé depuis les gradins avec l'inscription Zemmour 2022 sur les t-shirts des militants présents. Éric Zemmour accueilli comme une rockstar, bravant la foule, serrant des mains, embrassant quelques connaissances au passage. Eh oui, et si pour Zemmour tout va bien, en revanche, à droite c'est... Et bah à droite, c'est la cata. Ambiance morose qui plane également autour des proches de Marine Le Pen. Jordan Bardella qui reconnaît un léger partage du vote souverainiste. Robert Ménard, lui, avoue ne pas avoir pensé qu'Éric Zemmour en arriverait là. Évidemment que Marine Le Pen est très très inquiète, raconte le maire de Béziers. Oh là là. La République En Marche commence aussi à s'inquiéter. Alors pardon, il ne faut pas dire La République En Marche, mais plutôt la majorité présidentielle. Puisqu'en congrès à Avignon, il était inscrit majorité présidentielle. Le sigle LREM est devenu apparemment nuisible. Bref, à Avignon planait le fantôme d'Éric Zemmour.
L'aventurier du grand soir, qu'à titre personnel j'aime bien écouter parce que j'aime bien les grands orateurs, mais j'aime pas la démagogie et j'aime pas la mégalomanie. L'aventurier du repli, du rejet, du racisme, qui cite les grands auteurs comme certains font de la prose, mais qui donne des boutons aux historiens. Non, monsieur Zemmour, il ne suffit pas de citer Talleyrand toutes les trois phrases pour faire de vous un homme d'État.
Alors là, c'est en figurique, hein, pardon.
Est-ce que j'ai le droit vous avez reconnu Olivier Véran, hein, oui, évidemment.
Non, mais est-ce que j'ai le droit de dire...
Bien sûr, allez-y.
Parler de l'enfigourisme. Non, mais honnêtement...
C'est quoi l'enfigourisme pour
la,
les auditeurs?
C'est la pensée tellement compliquée, filandreuse. C'est pas complexe, à la limite. Oui, c'est compliqué, filandreuse. C'est-à-dire qu'on noie une idée simpliste et débile, en fait, dans
c'est
des mots...
C'est le contraire de vous.
Souvent,
vous allez plutôt vers
souvent,
le simple.
Emmanuel Macron, je trouve souvent Emmanuel Macron en figurique, par exemple. On dit, absolument. C'est la pensée complexe. En fait, non, il est en figurique. Ouais. Là, le Olivier Véran, il passe la moitié de sa phrase, Olivier Véran, à dire du bien d'Éric Zemmour en disant « j'aime les grands orateurs », mais en même temps, il est nul. Il est
enfin, à quel moment Éric Zemmour est un grand orateur?
Expliquez-moi qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. En réalité, je crois que...
Alors, c'est vraiment... la question, c'est Zemmour, vrai danger ou simple phénomène médiatique? C'est ça la vraie question.
Alors,
Philippe
moi, je pense que Zemmour est un candidat très sérieux, mais si j'avais à faire un pari à long terme, je crois que un jour, il sortira de cette ambiguïté voluptueuse où finalement il bénéficie beaucoup d'atouts. Il deviendra officiellement candidat et je pense que par rapport au Rassemblement National, sa structure d'appareil politique à long terme servira.
Est-ce qu'il y a un médecin parce que Philippe David s'étouffe.
C'est le terme pensée voluptueuse que j'adore.
Non,
c'est un peu figuré. C'est figuré.
Non, mais moi je suis d'accord. Vous savez, le cardinal de Retz, vous évitez la Retz au milieu, tout ça. Vous invitez Philippe David tout de suite.
C'est pas mon genre.
Non, mais je l'enlève. Je la vendange, l'office. Cardinal
en général, de
Retz.
Au milieu.
Voilà. On ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Ouais. On ne sort de l'ambiguïté. J'ai bien dit l'ambiguïté. On ne sort pas d'autre chose. OK. Par le cardinal de Retz. OK. Eh bien, je crois que Philippe Bigère a raison. Le jour où Éric Zemmour est candidat, ça, c'est tout à fait différent.
Ça change tout.
Pchit. Pchit.
Pierre, tu n'en as pas entendu.
Il est en train de recoiffer sa Retz.
Voilà. Moi, je pense que. Alors, je suis peut-être totalement naïf, mais j'assume. Je pense que Éric Zemmour. Comble un vide politico-médiatique.
C'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy la semaine dernière.
Ah ben vous voyez, comme quoi on est d'accord.
Je
l'ai pas regardé, donc tant mieux s'il partage si je partage son point de vue.
En fait,
je te remercie du coup, Françoise.
Mais toi, je sais très bien que ta suite, c'est pas comme Sarkozy qui va rester dans l'ambiguïté.
Mais je pense que Sarkozy avait dû écouter un propos en aparté.
Oui, certainement.
Pierre Lignard.
Non, Pierre, pardon.
Non, mais il convient aujourd'hui. Enfin, regardez. dans quelle situation on est. Aujourd'hui, les Français ne sont pas dans le temps de la campagne.
Exact.
Personne n'y est. La droite n'a pas de candidat. Du moins, il y a plusieurs candidats déclarés, mais il n'y a pas de deux candidats. On sait aujourd'hui que dès lors que la droite aura un candidat déclaré, ça va créer une dynamique qui va, et on va réoccuper un espace qu'on avait un peu déserté. Donc, et Zemmour, il profite aussi de ce faux plat, de ce trou d'air, on va dire, de Marine Le Pen. Donc voilà, il occupe cet espace-là. Moi, je pense, et pour en revenir sur le ça va faire pchit, je pense que l'arrivée dans l'atmosphère, et donc dans le dur de la campagne pour Éric Zemmour, ça va être compliqué. Parce que dès lors qu'il va falloir parler pouvoir d'achat, dès lors qu'il va falloir parler logement, dès lors qu'il va falloir parler industrie, dès lors qu'il va falloir parler social, dès lors, voilà, culture, tous ces sujets-là qui font une présidentielle, à un moment, on ne pourra pas dire que l'islam est responsable de tout.
Est-ce que je peux dire quelque chose?
C'est un peu la repentance qui est mort.
On a déjà dépassé le temps.
Il a un peu commencé à en parler.
À l'image de toutes les extrêmes droites européennes, honnêtement, elles sont en train de se neutraliser. Vous regardez en Italie, Fratelli d'Italia et la Ligue se neutralisent. En Allemagne,
c'est pareil en France. Merci Philippe Rossi, on se retrouve demain.
Eh oui, à demain.
Au revoir.
À 18h30, notre grand débat, Zemmour comparé à un virus, politiciens et médias ont-ils tous peur de lui? Vous êtes 90,8% à dire oui sur Twitter. Vous voulez réagir, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur d'un livre qui vient de sortir, Libre propos d'un inclassable, publié à la Nouvelle Librairie. Bonsoir Philippe Bilger.
Bonsoir mon cher Philippe.
Françoise Degoye, éditorialiste LCI et Sud Radio. Ah, rien de trop méchant,
non,
on espère.
Non, pas grave, mais voilà.
D'accord.
Je vais répondre.
On espère que c'est pas grave. Non. Et on pense à vous. Et Pierre Licia, conseiller régional d'Île-de-France du Mouvement Libre. À 18h30, notre grand débat, Zemmour comparé à un virus. Politiciens et médias ont-ils tous peur de lui? Vous êtes 90,5% à dire oui. Vous voulez réagir, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. Après la chronique de Philippe Rossi, un tour de table de l'actualité de Philippe Bilger, ça vous dirait les amis?
D'accord, on part.
Alors, Alicia, non mais attendez, parce qu'on va quand même le
pardon.
Lancer. Vous connaissez l'histoire de la femme qui va acheter un meuble chez Ikea?
Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Ah bon?
Ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est.
C'est tout à fait vrai.
Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens.
Le tour de table.
De l'actualité.
Et c'est votre tour.
Je n'y vais pas parler de Bernard Tapie, ni de Éric Zemmour. J'ai envie.
De Nils Arestrup.
Voilà, parce que j'ai lu en revenant de La Rochelle ce matin un très beau portrait de Nils Arestrup dans Libération. Et en particulier, j'ai trouvé intéressante la réflexion politique qu'il a faite, disant. Je n'ai jamais voté, mais contrairement aux gens qui ne votent pas et qui crachent sur les politiciens, lui dit « Je n'ai jamais eu de conscience sociale et j'ai toujours préféré le rôle... »
Mais j'ai rien dit.
Le rôle d'observateur. Et je ne pensais pas que cette pensée intéressante de Nils Arestrup pouvait susciter l'hilarité.
Mais pas du tout, mais j'ai pas ri.
Non, mais c'est intéressant. Mais
c'est intéressant.
Voilà.
Mais je ne ris pas.
Et je voulais distinguer, mon cher Philippe, si vous pouvez demeurer attentif.
Mais je le suis.
Le point de vue intéressant sur le plan politique d'un homme qui s'avoue lui-même dénué de la curiosité suffisante pour voter. Mais non, mais du français classique qui crache sur la vie politique pour justifier qu'il ne va pas voter.
Vous êtes d'accord avec ça, les gens qui crient tout le temps Françoise Degoye et qui ne vont se rendent pas aux urnes, lui il dit je vote pas mais je ne râle pas.
Je n'ai pas de conscience sociale, j'aime être observateur.
C'est impressionnant hein, donc on puisse avoir ce type de pensée, surtout pour nous qui passons notre vie, mais je crois que c'est une très grande honnêteté de le dire. C'est une très grande honnêteté de dire au fond moi je suis concentré sur ce qui m'apporte profondément, c'est-à-dire l'art, la culture, et au fond, la seule conscience sociale que je peux avoir, c'est celle-là. Quel lien je crée à travers mon art? Voilà, c'est ça le... Pas la
il
peine
a
de chercher.
Un petit fait pour mais, Rocard,
mais moi, je honnêtement, je pense qu'on peut effectivement se plaindre des politiques, gueuler et pas aller voter. Moi, je fais partie des gens qui pensent que l'abstention est un acte politique de plus en plus à part entière. C'est-à-dire qu'on s'abstient maintenant, une partie des abstentionnistes s'abstient volontairement, les yeux ouverts, la tête froide, comme s'ils allaient voter. Ils votent abstention. Voilà, c'est ce que je veux dire. Oui. Donc, c'est plus complexe.
Mais je suis tout de même très gêné, Françoise, quand je lis beaucoup d'entretiens d'acteurs d'acteurs ou de comédiens qui disent parfois des choses justes sur la vie politique en dénonçant. On leur demande « Vous avez voté de votre ?» Jamais. Je trouve que tout de même, là, il y a une contradiction fondamentale.
Oui, peut-être, vous avez raison.
Pierre Licia.
Oui, je suis un peu moins tolérant, entre guillemets. C'est ce que je considère que quand on n'est pas satisfait du personnel politique qu'on a, on a le droit de ne pas être satisfait, on a le droit de s'abstenir, mais on a le droit aussi de s'engager. Et donc, quand on considère que, en fait, on a les politiques qu'on mérite, quoi. Donc, si on considère qu'on n'est pas satisfait, qu'on n'est pas représenté, eh ben, c'est à tout un chacun de considérer qu'il peut s'engager dans le débat public. Certains l'ont fait avec plus ou moins de succès. Moi, je pense que, voilà, on est dans une démocratie, on a la chance de pouvoir vivre, de pouvoir le faire. Après, quant à la réflexion de Nils Arestrup sur son désengagement des urnes, j'aurais tendance à dire que j'ai à peu près la même réflexion sur le football, vous voyez. C'est-à-dire que je crache pas sur les footballeurs ni sur les équipes, mais en même temps... Ça me passe totalement au-dessus de la tête.
Philippe Bilger, le mot de la fin ?
Non, mais...
Élection piège à con, c'est pas la rhétorique de Nils Arestrup, en clair.
C'était un sujet intéressant, et à un moment donné, j'ai été troublé par une physionomie qui a prêté à rire, mais...
Vous parlez de quoi ?
Votre tête. J'étais troublé par votre tête, ça veut dire.
Encore une fois, j'aimais bien, comme le dit François, quelqu'un qui dit « je n'ai pas de conscience sociale ». Et en même temps, je me passionne en tant qu'observateur pour la vie politique. Et très souvent, je me rends compte que ce dédoublement, je le vis aussi moi-même. J'allais utiliser un adverbe qui vous fait rire, je vais dire agréablement, dans la mesure où je me sens engagé d'un côté et de l'autre côté très passionné par la curiosité politique, et notamment quand je regarde tous les débats, j'ai l'impression de les analyser plus en technicien, j'espère, pas seulement prétendu, qu'en analyste.
C'est marrant parce que Philippe Bilger dit la même chose à sa femme, il dit « je me sens très engagé d'un côté, et puis très passionné de l'autre, par tout ce qui nous entoure ».
Et qu'est-ce que vient faire mon épouse là-dedans ?
La pauvre. Non mais alors moi, si on pousse jusqu'au bout, c'est un vrai sujet, ça va être le sujet, je pense, l'abstention. Est-ce que quelqu'un a envie d'aller voter face à ce paysage ? Est-ce que le choix est trop complexe ? Est-ce que le choix est trop cornélien ? Est-ce que le choix ne correspond pas ? Si je devais, moi, pousser mon honnêteté jusqu'au bout, moi j'ai toujours été voté, hein, franchement, j'ai même pris des avions, j'ai vécu à l'étranger, je revenais voter, j'ai vraiment devoir sacré. Est-ce que cette fois-ci, si je m'écoute à 100% selon mon vœu, ma conviction, ma société idéale, mon utopie personnelle, avec tellement de choses qui vont pas ensemble a priori, moi, voilà, je suis la gauche républicaine, je dénonce les violences, mais j'aime l'armée. Enfin, vous voyez, je veux dire, il y a quelque chose comme ça, un peu chevènementaux royaliste, au non-sens de Ségolène Royal. Oui. Et honnêtement, est-ce que moi, je peux me reconnaître dans quelqu'un en 2022, à l'état actuel du marché? Si je suis honnête, non. Et si je suis honnête jusqu'au bout, est-ce que j'irai pas, est-ce que je serai pas abstentionniste pour la première fois de ma vie en 2022 Il est possible.
En même temps, François, vous l'aviez dit, on était d'accord, cette campagne présidentielle va être passionnante.
Oui.
Contrairement à ce que...
On avait peur que ça soit sous Covid, ça va être génial.
Dans quelques instants, on va parler d'un sujet dont on parle peu en France, mais dont on parle dans le monde, la chute probable d'Evergrande, l'immobilier chinois, 300 milliards de dollars de dette, qui a arrêté d'être coté cette nuit à la bourse de Hong Kong, et c'est une faillite. Alors Evergrande, c'est 2% du PIB chinois quand même, donc ça fait trembler la planète, c'est Lehman Brothers, peut-être à la puissance 10. On va en parler en compagnie de Didier Testo, qu'on retrouve tous les week-ends, dans le Grand Matin Week-end. Il est le fondateur de la Bourse et la Vie TV.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Pierre Licia. La nouvelle est tombée tôt ce matin en raison du décalage horaire. Le groupe immobilier chinois Evergrande, plombé par une dette de plus de 300 milliards de dollars, a suspendu ses opérations sur les marchés de la bourse de Hong Kong sans donner aucune raison. Un risque de faillite qui fait trembler la planète entière, mais dont les médias français parlent peu. Nous sommes en compagnie de Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV, que vous retrouvez tous les samedis dans le Grand Matin Week-end de Jean-Marie Bordry. Bonsoir Didier.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Tout d'abord, qu'est-ce qu'Evergrande ?
Ah, bien, c'est tout simplement le deuxième plus grand promoteur immobilier chinois, hein, donc c'est un mastodonte, hein, comme on dit, et qui effectivement, comme vous l'avez dit, est au bord du gouffre. Alors on ne sait pas si la faillite va arriver ou pas, mais c'est un groupe qui a été étranglé par cette dette dont vous avez rappelé le montant et qui se bat depuis plusieurs semaines pour honorer ses paiements d'intérêt et ses livraisons d'appartements. Vous avez peut-être vu, en tout cas pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, eh bien, des manifestations devant le promoteur, hein, des manifestants réclamaient tout simplement leur argent, puisque des Chinois ont investi dans l'immobilier et ça a été considéré comme une valeur refuge, hein, comme chez oui. nous en Occident. Simplement, bah, effectivement, pour accéder à la propriété, ils font comme on le faisait avec des promoteurs, ils ont déposé du cash, mais ils ne sont pas sûrs aujourd'hui que leurs appartements soient construits. Donc c'est un vrai sujet. Et le modèle d'Evergrande, hein, reposait sur cette prévente d'appartements en construction donc, bon, dans le cadre de cette frénésie. Mais le groupe, il a investi un peu partout. Alors on l'a retrouvé dans des clubs de foot, oui. des parcs d'attractions, l'eau minérale, les voitures électriques et même, j'ai vu, l'élevage de cochons ou le domaine de l'assurance. Voilà. Le problème, c'est que les rentrées d'argent qui ne suivent plus, ça a alerté les investisseurs. Et donc maintenant, tout le monde se tourne vers le gouvernement chinois. Qu'est-ce qui va se passer ?
Philippe Bilger.
Didier Testot, considérez que ma question est celle d'un profane absolu. Est-ce que vous pouvez m'expliquer clairement pourquoi cette catastrophe peut être un danger pour l'ensemble du monde ?
Alors ça, c'est effectivement le risque qu'il y a aujourd'hui, parce que simplement la société chinoise en question, même si on parle de la Chine et donc normalement que des entreprises chinoises, eh bien elle a émis des titres, elle est cotée à la bourse de Hong Kong, hein, et il y a effectivement certaines banques internationales qui ont pu lui prêter, donc ce qu'on appelle des produits structurés qui sont relatifs à la société, qui ont pu être certaines grandes banques internationales. Il y a eu un certain nombre de noms qui ont été cités, et c'est toujours le même sujet, si vous voulez, Philippe, c'est-à-dire qu'en partant d'une société qui a priori était chinoise, mais elle est sur des marchés financiers où d'autres peuvent la financer, et à un moment donné, bah, effectivement, si elle ne peut plus payer, on va dire, oui, mais qui a prêté à cette société chinoise ? Et on va peut-être retrouver une grande banque. C'est un peu le même schéma, effectivement, qu'on avait eu en 2008 avec d'autres sociétés. La différence aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être moins de prêteurs que, par exemple, du temps de Lehman Brothers en 2008, où il y avait des banques occidentales, il y avait des banques américaines. Là, majoritairement, effectivement, on va y avoir peut-être des Chinois. Et d'ailleurs, il y a une solution chinoise qui est en train d'être élaborée, puisque vous imaginez bien que la Chine va essayer de régler son sujet Evergrande de manière interne, peut-être en faisant racheter par une autre société. C'est ce qu'on a pu voir dans les médias chinois. Ils vont peut-être être rachetés par d'autres Chinois, si vous voulez. Mais effectivement, le risque, c'est la peur, c'est la contagion, c'est-à-dire qu'il y ait d'autres gens qui aient acheté effectivement des actifs de cette société et qui naissent, ces actifs valent zéro, puisque même si elle ne fait pas faillite, si les actifs sont dépréciés, ça peut avoir un effet boule de neige.
Le cours de l'action a baissé de plus de 80%. Hein. Françoise Degois.
Bah oui, c'est pour ça qu'ils ont arrêté la cotation. Oui, en fait, on peut dire, Didier, bonsoir, c'est Françoise Degois. On peut dire que de toute façon, c'est tout le modèle chinois qui va être remis en question. C'est ça le problème, parce que le modèle chinois, d'une certaine manière, c'est lui qui pousse au paroxysme l'idée de la spéculation et de la dette. Les entreprises sont endettées, mais parce que comme on prête aux riches, en réalité, on prête aux Chinois. C'est pour répondre à la question de Philippe Bigère. Pourquoi est-ce que c'est mondial ? Parce qu'à un moment donné, vous avez
la Chine
également...
est la banque du monde.
La Chine, elle nous a sorti. Hein, la Chine a prêté ses fonds souverains, je rappelle, dans la crise de 2008 pour soutenir les économies occidentales.
Mais la réalité, elle en avait besoin pour faire tourner ses usines.
Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que notre modèle, le modèle chinois, c'est la dette et la spéculation. À partir du moment où il y a la confiance se rompt, je suppose qu'on va être d'accord là-dessus, c'est ce qui se passe avec Evergrande. Et à partir du moment où ça se rompt, eh bien, il est là le danger. Le danger est domino, en réalité. C'est ça ?
Didier Testot et après Pierre Lycia.
Oui. En fait, c'est un vrai test pour le gouvernement chinois, parce que c'est le paradoxe quand on parle de la Chine, parce qu'on parle du Parti communiste chinois, mais effectivement, moi, je lis une lettre sur la Chine toutes les semaines, et dans cette lettre, vous avez un nouveau milliardaire. Donc, toutes les semaines, vous avez un nouveau milliardaire. Mais en fait, c'est un vrai test pour le gouvernement chinois, pour limiter l'impact social de cette affaire, parce que finalement, le capitaliste qui met en œuvre, il en a besoin. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de croissance en Chine, et c'est un des autres sujets, vous savez qu'on a parlé de crise énergétique, elle est très grave.
n'allez pas. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai des amis qui habitent en Chine,
L'économie chinoise est en train de freiner. Donc là, les économies sont en train de dire attention. Et ça, ça a un impact, bien sûr, sur le monde entier. Mais on sait que le Parti communiste chinois, il ne tient que parce qu'il arrive effectivement à développer des entreprises, développer des secteurs, à faire de la croissance, à enrichir effectivement le peuple de manière le plus possible. Mais si cette croissance diminue, si cette croissance ne va pas s'arrêter, mais si au lieu d'avoir 6-7%, on n'a plus que 4%, eh bien ça peut créer effectivement des mouvements. Et on est à cette, un peu à cette frontière, c'est-à-dire qu'il y a des vraies questions sur est-ce que l'hypercroissance de la Chine eh bien, ne va pas commencer à devenir simplement une croissance, et comment le gouvernement chinois va faire ça, va gérer ça. Vous l'avez vu sur les valeurs technologiques, on en a parlé, moi j'ai eu l'occasion d'en parler, il a complètement contrôlé les valeurs technologiques, par exemple récemment, parce qu'il s'était aperçu que peut-être les jeunes passaient un peu trop de temps sur les jeux vidéo. Donc il est en train d'essayer de contrôler à nouveau, et là ils ont le Parti communiste chinois a dit les logements servent à se loger, pas à spéculer, maintenant, après avoir laissé, vous voyez, les milliardaires...
Pierre Licia court et Didier Testo court.
Mais alors court, ça revient un peu sur ce que disait Philippe Bilger tout à l'heure. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que la Chine étant un monde dans le monde, l'onde de choc d'une éventuelle déflagration de ce géant chinois ne pourrait pas être cantonnée, si vous me permettez le mauvais jeu de mots, à la Chine uniquement? Et est-ce que cette entreprise avait non seulement des prêteurs à l'international, ça j'ai bien compris, mais est-ce qu'elle avait aussi investi dans d'autres entreprises européennes, dans de grands groupes internationaux, et qui aujourd'hui pourraient être menacés?
Ça, on n'a pas toutes les informations, bien sûr, de ce côté-là, mais la plupart de ceux qui parlent des marchés aujourd'hui considèrent qu'effectivement ça peut être cantonné, comme vous dites, mais il n'y a aucune certitude. Et comme à chaque fois, vous savez, on est dans les mois d'octobre, on n'aime pas trop les mois d'octobre quand on suit la bourse, hein, c'est les crises de 29, c'est celle de 2008. Oui. Donc à chaque fois, on a peur que ça puisse effectivement partir en vrille, comme on dit. Bon, là, pour l'instant, les investisseurs parient sur le fait que le gouvernement chinois va régler le sujet, et que donc on aura une petite onde de choc et pas un choc mondial.
Didier, le gouvernement chinois, a priori, n'a absolument pas l'intention de régler le sujet. Ils ont demandé, j'ai vu la dépêche AFP, où ils demandent aux banques de réguler le marché immobilier. L'autre problème, c'est les routes de la soie. Hein. Le projet pharaonique fou de Xi Jinping, en réalité, la Chine se retrouve, pour prendre du terrain, se retrouve dans la position d'un pays qui prête énormément à des pays extrêmement endettés, qui ne sont pas non plus en mesure de rembourser. Attention à cet équilibre-là, hein, vraiment.
Ce qui est intéressant, c'est que le sujet de la dette en Chine, en fait, c'est le même que celui des États-Unis. Parce que je ne sais pas
si vous êtes au courant, mais
aux États-Unis, ils sont en train de discuter entre républicains et démocrates pour remettre le plafond de la dette.
Et même pour créer une pièce de 1 trillion de dollars.
Ouais.
C'est exactement ça. Et finalement, la Chine a le même sujet aujourd'hui de la dette, un vrai sujet. Et là, ils ont simplement dit aux gouvernements locaux, attention, peut-être que le géant va s'effondrer et nous, on ne renflouera pas. Donc préparez-vous à
Didier,
ce que ça
fasse. Didier, je voudrais vous poser une question pour une réponse hyper courte. Est-ce que l'affaire Evergrande peut faire exploser la bulle immobilière chinoise?
Ah bah, ça va le faire, parce que vu le nombre de gens qui sont concernés en Chine, vu la taille du groupe, oui, ça va le faire. Après, effectivement, là-dessus, va y avoir un vrai choc, et ça peut avoir, je pense que pour l'instant, les analystes sont en train d'essayer de mesurer quel va être l'impact sur le ralentissement économique chinois à cause de ça.
Merci beaucoup Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Vous le retrouvez d'ailleurs tous les samedis dans le Grand Matin Week-end de Jean-Marie Bordry. Dans quelques instants, le grand débat des vraies voix. Zemmour comparé à un virus, politiciens et médias ont-ils tous peur de lui? Ça vote beaucoup, vous êtes 90,2% à dire oui. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degoy et Pierre Licia.
Faut-il avoir peur d'Éric Zemmour?
On avait dit qu'on ne prononcerait pas le mot de Zemmour ce soir. Le virus progresse, il a remplacé toutes les autres maladies, on ne parle plus que de ça.
Un microbe invisible, des millions et des millions de fois plus petit qu'un moustique.
Je l'ai eu dans mon laboratoire pendant presque 5 ans, Zemmour, et j'ai l'impression que je l'ai laissé échapper.
Savent-ils même ce que c'est qu'un microbe? J'en doute fort.
Peut-être qu'on pourrait ne plus en parler, ça c'est une solution.
Est-ce que vous avez peur? Répondez-moi à cette question.
Est-ce que j'ai une tête à avoir peur de quoi que ce soit?
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
Il y a quelques années, les injures politiques étaient souvent en on ou en off et faisaient preuve d'un certain niveau de langage. Ainsi, le général de Gaulle qualifiait François Mitterrand d'arsouillant off quand Mitterrand le qualifiait de caudillo, de duce, de fureur dans le coup d'État permanent. La politique ayant bien changé depuis ces temps que les moins de pas mal d'ans ne peuvent pas connaître, une injure politique est répétée à l'envi contre Éric Zemmour depuis quelques jours, virus qui signifie poison en latin. Fin septembre, Valérie Pécresse aurait dit en privé qu'elle aurait eu peur d'attraper un virus en étant dans la même pièce qu'Éric Zemmour avant de nier ses propos. Ce week-end, le terme a été répété deux fois par Jean-Marc Morello, le numéro 2 de La République En Marche, et par Laurent Ruquier dans l'émission On est en direct. Des propos dénoncés par Elisabeth Lévy dans son édito du Grand Matin, aujourd'hui sur Sud Radio, avec Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Zemmour comparé à un virus, politiciens et médias ont-ils tous peur de lui? Vous êtes 90,4% à dire oui sur Twitter. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Avec nous, Stanislas Rigaud, président de Génération Z. Bonsoir.
Bonsoir, merci de me recevoir dans votre émission.
Est-ce que finalement, ces insultes ne sont pas le meilleur accélérateur de campagne d'Éric Zemmour? Alors, campagne, alors qu'il n'est pas candidat.
Bah écoutez, c'est vrai que quand on a Laurent Ruquier qui donne des grandes leçons à tout le monde, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'écho en France. Et concernant le numéro 2 de La République En Marche, bon, je vous avoue que je ne savais pas qui il était avant de voir ses propos. Oui, je pense qu'en effet, ça entre guillemets, je mets des guillemets parce que c'est jamais agréable de se faire insulter, de se voir qualifier de virus ou quoi que ce soit. Mais de fait, à force de taper tout le temps sur Éric Zemmour avec des arguments, enfin sans arguments justement, en étant dans l'invective, évidemment qu'à la fin, ça sert. Les gens en ont assez en fait d'avoir un débat politique basé sur la seule invective, pardon, et qualifier Éric Zemmour, vous savez, de virus après la crise mondiale qu'on a eue, et donc le qualifier de comparer à un drame aussi grand que celui qu'on a vécu, je trouve ça évidemment pathétique. Mais bon, ça m'étonne pas, surtout d'un Laurent Ruquier, quand on a vu la façon dont il s'est comporté avec Jean-Luc Mélenchon ce week-end et la façon dont il a eu de lui servir la soupe.
Françoise de Goix.
Oui, enfin, je vais reprendre une expression de Jean-Luc Mélenchon et de Zemmour. Arrêtez avec vos pudeurs de gazelle et de jouer les chouchottes. Honnêtement, se faire traiter de virus et victimiser, en faire des caisses sur « Oh là là, il a été traité de virus !» Oh, c'est grave. Non, mais je veux dire par là que j'ai bien compris la stratégie. Il n'y a rien de dramatique, ça ne vaut pas édito.
Ah,
on ne peut pas, trouver tout à fait formidable que Daniel Obono soit en esclave à la une de Valeurs Actuelles et le trouver ça génial. Non. Et hurler
mais
parce qu'on traite. Est-ce que je vais terminer? Et hurler parce que je vous termine. Vous me laissez terminer. On s'en fout. Ça fait partie du débat politique. Si on devait faire l'addition générale de la somme des noms d'oiseaux, de la somme des insultes, écoutez les discours de Mitterrand pendant la campagne contre Valéry Giscard d'Estaing, écoutez les discours de Gaulle, écoutez les discours de Jaurès, les engueulades avec Jules Guedes. Enfin, moi, je sais pas ce qu'on a là. D'un seul coup, on devient comme si on était des enfants de la crèche.
Napoléon à Talleyrand.
Enfin, c'est
complètement
de la merde.
Dans un
bas de soie.
C'était autre chose qu'un virus.
Honnêtement, franchement, on s'en fout des virus de Zemmour. Alors,
non, mais
Philippe Bilger et après Stanislas Rigaud.
Je voudrais. Je ne suis pas d'accord avec vous, Françoise, et pas plus qu'avec Pierre. J'ai cru comprendre.
Simplement citer Napoléon.
Oui. Je trouve que c'est très révélateur tout de même d'un monde qui se dégrade, d'un monde politique qui se dégrade. Parce qu'au fond, on quitte l'humain pour aller vers le microbe. De la même manière que Jean-Paul Sartre, à une certaine époque, n'hésitait pas à qualifier ses ennemis de rats.
Il disait un anticommuniste est un chien.
Voilà. Donc,
Ah oui, c'est vrai.
Je crois qu'au-delà de la situation d'Éric Zemmour, je pense tout de même qu'il n'est pas sain dans une démocratie de qualifier un adversaire politique de virus, et ça montre moins une peur, pour répondre à l'interrogation de Sud Radio, qu'une inaptitude à le combattre sérieusement. Quand on traite Zemmour de virus, oui, ça veut dire qu'on ne sait pas quoi faire face à lui.
Stanislas Rigaud.
Mais écoutez, madame, moi, je suis d'accord avec vous.
Ah non, là,
moi,
c'était monsieur.
Vous êtes d'accord pour dire que c'est pas grave.
Évidemment, moi, je me suis pas levé ce matin en étant heurté, en disant ouais, qu'est-ce que je vais faire de ma journée après cette attaque terrifiante de la part de Laurent Ruquier. Pas du tout.
Merci.
Mais, du tout. Mais moi, je vais vous dire, évidemment, moi, on me pose la question, est-ce que vous pensez que ça le sert? Est-ce que vous pensez que c'est en gros ridicule de qualifier quelqu'un de géos? Oui, je trouve ça ridicule, je trouve ça pathétique, ça n'élève pas le débat. Et d'ailleurs, si je dis ça, c'est pour prendre le sujet dans sa globalité. Ça fait un mois maintenant qu'Éric Zemmour est l'un des sujets majeurs de l'actualité politique, et peu de gens, en réalité, peu de gens, mais Jean-Luc Mélenchon, par exemple, l'a fait, sont allés débattre de fond avec lui. Alors, c'est juste le seul point que j'essaye de mettre en exergue. Évidemment, Éric Zemmour, à mon avis, n'en a que faire de savoir ce que pense le numéro 2 d'En Marche et de ce que pense Laurent Ruquier. C'est pas le sujet. Mais par contre, en règle générale, cette campagne où, en fait, sur Éric Zemmour, la seule chose qu'on a à dire, c'est il est raciste, c'est un virus, il est méchant, mais merci, les Français, on s'en fiche royalement.
Stanislas Rigaud, on va faire réagir Pierre Licia et on va aller au 0826-300-300, ça appelle énormément Pierre Licia.
Trop chaud. Oui, Stanislas Rigaud, ne tapez pas trop sur Laurent Ruquier, parce que je vous rappelle quand même que si Éric Zemmour est ce qu'il est aujourd'hui, c'est quand même beaucoup grâce à Laurent Ruquier. Parenthèse fermée.
Merci, Monseigneur.
Moi, ce qui me chagrine un peu, effectivement, je pense que l'insulte virus n'est pas une insulte. Alors, je comprends que vous utilisiez ça pour la victimisation permanente d'Éric Zemmour, etc. Là où je rejoins Philippe Bilger, c'est qu'effectivement, quand on arrive à insulter un adversaire politique, c'est qu'on n'a plus grand-chose à lui opposer sur le fond. Moi, j'aurais préféré, c'est en ça que ça me chagrine, j'aurais préféré que vous soyez un peu plus choqué, heurté par les déclarations négationnistes d'Éric Zemmour sur la France de Vichy plutôt que sur les attaques en virus sur Éric Zemmour. Là-dessus, par exemple, j'aurais aimé vous entendre un peu plus fort. Voilà.
Mais en tout cas, je voulais juste vous dire que ça sera bien. On a passé à peu près une semaine à commenter la hausse spectaculaire d'Éric Zemmour dans les sondages, ça serait bien qu'on passe une semaine à commenter sa baisse spectaculaire. Voilà, dans le dernier LCI IFOP, fiducial que nous avons et qui est sorti à 17h, voilà, Éric Zemmour, il revient à 12 points. Voilà, il revient à 12%. Donc, moi, j'aimerais, avec cette chute qui est énorme de 3 points, largement aussi importante que le petit jump de 1 point de 14 à 15, j'aimerais que nous en fassions des heures et des heures d'analyse.
C'est la volatilité des sondages.
C'est pour ça que je dis qu'il faut arrêter de se prendre la tête.
Et Marine Le Pen était à combien?
Elle monte, elle est à 18, voilà, elle est toujours qualifiée pour le second tour. Xavier Bertrand est à 15, vous allez voir. On va revenir aux étiages.
Chacun sur les sondages. Mais très rapidement, je ne comprends même pas qu'on accorde autant d'importance aux sondages, alors que les dernières régionales nous ont démontré que 2 jours avant, 48 heures avant le premier tour, on avait
les sondages ont été catastrophiques au niveau terme de résultats.
On appuie toutes nos analyses politiques et je m'insurge contre ça sur des enquêtes d'opinion. C'est pour ça que me moque même de nous-mêmes. On a fait la course 13, 14, 15, tous les jours quasiment breaking news. Il est à 12, on fait quoi
Stanislas Rigaud, est-ce que cette chute, alors j'ai pas vu le sondage, il vient de tomber, je l'ai pas sur Twitter, est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous dites bon c'est un sondage parmi tant d'autres et après on part au 0826-300-300 ?
En quelques mots très rapides, sur les sondages, moi ça tombe bien quand on me posait la question ce week-end de la hausse, et c'est vrai spectaculaire pour un non-candidat d'Éric Zemmour, je répondais, il faut être prudent sur les sondages. Et évidemment que je suis content qu'Éric Zemmour monte dans les sondages. En revanche, il faut rester prudent. Et je crois que Monsieur Licia a raison. Les sondages, il faut s'en méfier. En revanche, ça donne quand même certaines dynamiques. Sur le sondage qui donne à 12, moi, il me semble qu'on a dit aujourd'hui que d'autres sondages arriveraient et confirmeraient qu'Éric Zemmour est toujours à peu près haut dans les sondages. Et évidemment qu'il faut rester prudent. Moi, je suis pas en train de vous dire qu'Éric Zemmour est troisième de l'élection présidentielle. Rien n'est fait, mais pour rappel, il n'est pas candidat. Et pour conclure ma petite intervention, moi, vous savez, ma phrase en tout cas.
Il a de l'humour ce moment. Moi, je l'aime beaucoup. C'est dommage que vous souteniez Zemmour. Vous mériteriez d'être ailleurs.
Mais peut-être qu'il a choisi.
Vous mériteriez d'être ailleurs.
Laissez-le pas, parce qu'on nous attend au 0826-300. Alors, on part au 0826-300-300, direction Paris. Bonsoir, Nadia.
Bonsoir.
Est-ce que vous pensez, justement, comme les auditeurs de Sud Radio, qu'il fait peur à politiciens et médias? 90,4% disent oui.
Moi, je ne peux pas comprendre qu'il y ait une peur, parce que c'est finalement... Éric Zemmour, c'est un employé d'un gros groupe de médias, le groupe Canal. Depuis quelques semaines, on voit un petit peu quand même un matraquage sur certaines chaînes. Donc on a finalement un phénomène qui est créé, entretenu. Il faudrait pas que, comme l'a dit votre invité, il n'est pas candidat, il faudrait pas qu'il y ait quand même un parasitage de la campagne électorale et un biais en fait dans le débat qui doit se concentrer sur les problèmes réels des Français et pas juste sur une opération médiatique finalement, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est un employé d'un grand groupe de médias, donc il faudrait que ça fasse du buzz pour que quand il va retourner dans son émission, ben voilà, il aura gagné plus de parts de marché. Je pense qu'on a d'autres problèmes que ça en fait, et ça serait bien de parler des vrais problèmes.
Alors, on va en parler justement. Merci Nadia de Paris. On prend la direction de Pau, d'où nous appelle Pierre. Bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir les Grévois. Alors là, je vais essayer d'être très concis, mais j'ai beaucoup de choses à dire. D'abord, je me rejoins totalement à la ligne du vieux sage qui est Philippe Bilger. Je pense que de toutes les manières, Zemmour est en train de mettre un coup de pied dans la fourmilière, dans la façon de faire de la politique, et qu'il est en effet craint par tout le monde, et que malheureusement, il est tellement au-dessus des autres, intellectuellement, culturellement, qu'il y en a peu qui osent venir discuter avec eux. Le seul qui a été capable de le faire, parce qu'il avait le niveau, c'est M. Mélenchon. Et si les autres, je veux dire, avaient un tant soit peu le niveau, ils viendraient débattre. Et pour répondre à Nadia, je veux dire, qui vient d'intervenir, je lui répondrai la chose suivante. Éric Zemmour s'est fait sa place tout seul. Je veux dire, il n'y a qu'à voir les audiences de CNews, je veux dire, qui ont cessé de grimper au fur et à mesure des mois. Pourquoi CNews a grimpé dans les audiences? Parce que les gens se sont branchés sur la télévision et que son discours, eh bien, en fait, il y a une demande de la population, il y a une demande des gens qui en ont plein le dos. Je veux dire, d'entendre toujours la même soupe, toujours les bénis oui-oui, on fait un discours policé, on ne veut choquer personne et compagnie. Pierre. Et je pense qu'il y a une grosse partie de la population qui en a plein le dos. Et une dernière chose, très courte, et ceux qui prévoient, alors les sondages, rien à faire, ça, on verra, parce que on s'aperçoit que le passé, les sondages sont totalement plantés. En revanche, dernière chose, ceux qui disent qu'une fois qu'il sera déclaré, oh, on verra ce que Zemmour aura dans le ventre, il n'aura plus rien à dire sorti de l'immigration, je pense que c'est oublier tous les bouquins et toutes les émissions qu'il a fait, parce que si on le déchiffre un petit peu, Pierre, un programme, il en a essayé de quoi il
parle. Alors Pierre, je vais vous reprendre sur une chose, vous avez qualifié Philippe Bilger de vieux sage, un, il n'est pas vieux, et deux, il est encore moins sage. Ça, c'est quand même une certitude.
On remercie merci Nadia pour la confraternité.
Étonné, parce que normalement, comme tu es à ce point dans la lèche, carrément, je pense que tu aurais dû dire, un, il n'est pas vieux, deux, il est vraiment plus que sage. Normalement, c'est ça que tu aurais dû dire.
Non, mais là, j'étais dans le réel. Parlons vrai. Justement, Stanislas Rigaud, qu'est-ce que vous voulez répondre à Nadia de Paris et à Pierre de Pau? Nadia, elle dit, c'est un personnage médiatique, un journaliste de médias, et donc c'est une bulle médiatique. Et Pierre dit que tout le monde court après lui, il court-circuite, il fait imploser le paysage politique.
En tout cas, sur le vieux sage, j'ai eu peur pendant 2 ans qu'on parle de mon analyse, et je me sentais très flatté, j'ai vu que c'est Monsieur Bilger. Nadia, sur ce que vous avez dit, madame, je ne sais pas si elle m'entend encore, mais non, moi je ne pense pas que c'est une bulle. Moi je ne pense pas que c'est une bulle en quelques mots, parce que moi je le vois lors de ses conférences, je le vois à Nice, je l'ai vu à Toulon, je l'ai vu à Lille ce week-end, je l'ai vu à Rouen, j'étais à Rouen vendredi soir avec des militants, je l'ai vu au Vendée également dimanche, voilà, j'ai beaucoup bougé. Non, je ne pense pas que c'est une bulle médiatique, et si c'en est une, ça fait une bulle qui dure depuis maintenant pas mal d'années. Ses lecteurs, c'est vrai, mais le succès de son livre, on le dit quand même long. Et en plus de ça, pour finir sur Nadia, on disait pareil d'Emmanuel Macron, c'était une bulle, la bulle a fini par s'envoler jusqu'à l'Élysée. Pour répondre Pierre. À Pierre, qui lui, justement, je suis évidemment en plus en accord avec ce qu'a dit Pierre, je crois que si les opposants politiques d'Éric Zemmour l'attaque entre guillemets ad hominem par des noms d'oiseaux ou par des caricatures, c'est parce que beaucoup ne veulent pas débattre avec lui. Et tout à l'heure, et pour preuve, j'en veux pour preuve, ce matin j'étais sur une chaîne concurrente à la vôtre, et j'étais avec un porte-parole de Monsieur Bertrand. Et à la question, Monsieur Bertrand, accepterait-il de débattre avec Éric Zemmour? Il a répondu en estivant oui, s'il est au second tour. Enfin, ça en dit quand même long sur la capacité des opposants politiques d'Éric Zemmour à accepter le débat fond. Et je finis sur ça. Éric Zemmour, en effet, ne parle pas que d'immigration, pas que de l'insécurité, pas que des problèmes d'identité. Il parle également, et il l'a prouvé à Lille pendant 1h30 ce week-end, il a parlé économie, industrie, instruction, enfin éducation nationale si vous préférez, et il a répondu aux questions sur l'armée française. Je pense que si on prend le temps de s'intéresser à son discours, et on a le droit de critiquer son discours sur l'économie, l'industrie, etc., vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire.
Alors, je vais donner le sondage qui vient de sortir, un sondage Le Figaro pour LCI et Fiducial, un sondage de l'IFOP. Emmanuel Macron est en tête à 24% des voix si le premier tour avait lieu ce soir. Seconde position, ce serait Marine Le Pen avec 18%, donc qui remonte. Xavier Bertrand en troisième position, 15%. Éric Zemmour à 12%. Jean-Luc Mélenchon à 7%. Yannick Jadot à 8%, pardon. Jean-Luc Mélenchon à 7%. Anne Hidalgo à 5,5%. Montebourg à 3,5%. Et ensuite, ce sera 2% Fabien Roussel, et ensuite des scores à 1% ou inférieur. Ça vous fait peur très très rapidement, Stanislas Rigaud, ce petit coup de mou dans les sondages?
Pas du tout. Il n'est pas candidat. Moi, je ne m'attendais pas à avoir des sondages aussi hauts au début du mois d'octobre, pour tout vous dire. Donc franchement, 12, je trouve que c'est un score honorable. Et en plus, les sondages, en effet, bougent tout le temps. C'est des photographies de l'opinion à l'instant T. Il me semble, c'est ce qu'on m'a dit ce matin, d'autres sondages sortiront dans la semaine où Éric Zemmour serait encore plus haut qu'il n'a été. On verra ce que ça donne. Moi, je reste prudent. Le jour où il sera candidat, une impulsion sera sûrement lancée. Et en plus de ça, il pourra avoir son programme.
Merci beaucoup, Stanislas Rigaud. Verdict, président de Génération Z. Verdict sur Twitter. Zemmour comparé à un virus. Politiciens et médias ont-ils tous peur de lui? Vous êtes désormais 91% à dire oui sur Twitter. Tout de suite, on va prendre la direction des Bouches-du-Rhône. On va retrouver notre correspondant à Marseille, Lionel Maillet, pour parler des intempéries qui frappent très durement le département.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Pierre Licia. Et mon cher Philippe Rossi, Gérald Darmanin appelle les habitants du Sud à faire très attention.
Eh oui, la vigilance rouge alors a été levée dans les Bouches-du-Rhône il y a quelques minutes. Le département repasse en vigilance orange. Le Var et les Alpes-Maritimes, eux, n'ont pas bougé, sont toujours en vigilance orange. Il y a en ce moment, et par intermittence, des violents orages dans le Var. Plus de 180 interventions qui ont été recensées. Et puis à Marseille, on y vient, plusieurs rues de la ville ont été fermées à la circulation. Le maire de Marseille qui appelle les habitants depuis ce midi à limiter leurs déplacements. On retrouve tout de suite Lionel Maillet qui est en direct de la cité phocéenne. Bonsoir mon cher Lionel.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à vous, correspondant Sud Radio pour le Grand Sud. Vous êtes dans un quartier à l'est de Marseille, donc un quartier sous les eaux, Lionel.
Ah ouais, quartier de la Barrasse, Philippe, à l'est de Marseille, parce que c'est là que se sont abattus des trombes d'eau la nuit dernière. C'est l'un des quartiers les plus touchés, à 2 mois de pluie en quelques heures la nuit dernière. 1 mètre d'eau dans les maisons, dans les garages. Ça s'est passé exactement ce matin vers 6h avec une vague qui a dévalé dans le vallon de la Barrasse. On est à flanc de colline et c'est une vague donc qui a tout emporté, qui a déplacé les voitures et qui s'est introduite dans les habitations. Heureusement, pas de blessés, que des dégâts matériels, mais c'était très impressionnant parce que ça s'est passé en à peine une demi-heure. L'eau est montée d'un coup, elle a dévalé dans les rues. Et à l'heure où je vous parle, la situation est beaucoup plus calme parce qu'il ne peut plus depuis 16 heures environ. Et les habitants sont en train de nettoyer les maisons et nettoyer les rues parce qu'il y a énormément de boue et c'est assez impressionnant.
Alors les Marseillais ne sont pas préparés. Il n'y a pas eu d'inondation à Marseille comme on a pu le voir dans la région. Les habitants n'étaient pas préparés, même s'ils étaient prévenus.
Alors il y avait la vigilance effectivement, oui. Mais par exemple dans ce quartier de la Barrasse où je me trouve, c'était la dernière inondation qui avait fait date, datée de 2003. Donc c'est dire si à Marseille on n'est pas habitué à ça. Encore une fois, 2 mois de pluie en à peine 5 heures en une nuit, c'est un record à Marseille, ça s'est jamais produit au mois d'octobre. Donc évidemment qu'on n'était pas préparé. D'ailleurs ce matin, les habitants et les gens de Marseille, les Marseillais ont emmené les enfants à l'école. Et puis la mairie, dans la précipitation, dans la hâte, quand il y a eu cette alerte rouge, a demandé aux parents de venir très vite chercher les enfants. Beaucoup ont râlé d'ailleurs en disant mais c'est pas possible, on peut pas s'organiser, est-ce qu'il fallait pas dès hier soir nous prévenir en disant voilà, il va avoir la pluie, est-ce qu'il faut pas fermer directement les écoles?
C'est vrai qu'on a l'impression, alors à Marseille mais aussi dans les départements qui sont souvent touchés, on a l'impression toujours que c'est dans l'urgence, qu'on n'est jamais assez préparé, jamais assez prévenu tôt, Pierre Licia. Pardon, excusez-moi. Lionel Maillet, j'ai Pierre Licia en face de moi. Lionel, non mais c'est vrai.
C'est ce que disent malheureusement les météorologues, c'est que c'est tellement difficile de prévenir ces épisodes méditerranéens et on se base, et c'est ce que dit aussi la préfecture, on se base que sur les niveaux de vigilance. Hier soir à Marseille, on était en vigilance orange. Ça veut dire qu'en théorie, on peut emmener les enfants à l'école et que les administrations et la ville, entre guillemets, la ville continuer à tourner. La vigilance rouge, c'est la vigilance extrême. Et il rappelle que ce n'est qu'une vigilance. Et ce matin, beaucoup de Marseillais disaient, il y a eu des trompes d'eau pendant la nuit, mais pendant la journée des éclaircies, comment ça se fait qu'on nous parle encore de vigilance? Le problème, c'est que ben, les flux remontent de Méditerranée, c'est assez incertain, c'est des lignes d'eau. Parfois, ça arrive sur des zones et ça reste en stationnement, et c'est là que, stationnaire, et c'est là que c'est le plus inquiétant et le plus dangereux. Mmh. Parfois, ça ne fait que passer. À Marseille, il y a eu une première vague pendant la nuit qui a été assez stationnaire, c'est là qu'il y a eu les inondations. Cet après-midi, on nous avait prévu un cataclysme, tant mieux, il n'a pas eu lieu, et c'est là aussi que les gens se sont dit, mais pourquoi nous avoir fait venir chercher les enfants à l'école ce matin, après il ne pleut plus? C'est un peu la confusion, et c'est très dur effectivement de prévenir ces épisodes-là.
Bon voilà, il ne pleut plus à Marseille, ça devrait s'arrêter d'ici une petite heure. Merci à vous Lionel Maillet, je profite que vous êtes avec nous pour revenir. Voilà, il nous reste une petite minute sur la disparition de Bernard Tapie, on en a beaucoup parlé hier. J'aimerais savoir aujourd'hui, oui, voilà, entre 18h et 20h et entre 12h et 13h avec Jean-Marie Bordrière, j'aimerais savoir 24 heures après la disparition de Bernard Tapie, quelle est en quel état sont les Marseillais malgré les inondations, les intempéries?
Alors, ça continue, l'hommage continue au Vélodrome, puisque ce matin ont été installés des livres d'or et des cahiers de condoléances au Vélodrome dans un salon privé. Et il y a des gens qui font la queue, entre guillemets, qui viennent déposer un petit mot, un dernier message à Bernard Tapie. Il y a le portrait de Bernard Tapie, celui qu'on a vu hier soir qui était disposé devant le Vélodrome. Il y a la Coupe d'Europe dans une vitrine, devant les cahiers. Et les gens viennent, voilà, quelquefois, une ou deux minutes, dire un petit mot, adieu le boss, et puis il y a un mot qui revient toujours et qui est sur toutes les bouches, c'est merci oui. Tout simplement pour ce qu'il a fait pour la ville, pour le club, pour la fierté, et voilà, donc ces gens défilent, ces cahiers vont être disposés jusqu'à mercredi, et la suite c'est jeudi avec une chapelle ardente, et évidemment vendredi matin son inhumation dans le cimetière de Mazargues.
Avec la messe d'enterrement, je crois, à la cathédrale de la Major, c'est ça?
Exactement, sur après du port de Marseille, effectivement, avec la cérémonie à 11h du matin, vendredi. Ça
va être magnifique. Oui. On aimerait y être, vraiment.
Oui.
Non, mais
on imagine qu'il va y avoir énormément d'émotions à Marseille vendredi prochain.
Merci Lionel Maillet, attention à vous quand même. Hein.
Absolument, merci beaucoup les vraies voix. Merci Philippe Bilger, Françoise Degois, Pierre Licia qui va rester avec nous jusqu'à 19h20 pour la suite des vraies voix. Et nos deux vraies voix du jour seront Muriel de Béziers qui veut parler justement de Bernard Tapie. Elle est devenue entrepreneuse grâce à l'émission Ambition. Et on aura Laurent de Montpellier, c'est pas très loin de Béziers, qui veut parler d'Éric Zemmour. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h20, Philippe David.
Retour des vraies voix, Pierre Licia, conseiller régional d'Île-de-France du Mouvement Libre, est resté avec nous. Philippe Rossi nous a rejoint avant de passer tout à l'heure vers 19h25 aux vraies voix de la politique. Ouais. Et notre première vraie voix du jour, on prend la direction de Béziers, c'est Muriel. Bonsoir Muriel.
Eh ben bonsoir tout le monde. Bonsoir,
et vous Muriel. Voulez parler de Bernard Tapie, puisque si vous êtes devenu chef d'entreprise, c'est grâce à lui.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est pas lui qui m'a aidé financièrement, on est bien d'accord. Hein.
On s'en doutait un peu.
Voilà. Non, mais moi, on a 4 ans d'écart, donc j'ai vécu toute sa jeunesse et toute sa période, et surtout cette émission qui a été fantastique, qui était Ambition, voilà, et qui a donné à des gens comme nous, de ma génération, l'envie justement de se lancer, parce qu'à l'époque, on nous demandait pas de sortir de l'ENA, d'avoir des diplômes, etc. Nous étions des autodidactes, et moi je peux vous dire, hein, j'ai monté une société d'import sport, ah oui. Voilà, et j'étais pas milliardaire, je ne suis pas non plus sortie de la cuisse de Jupiter, mais sincèrement, il avait un tel dynamisme que, voilà, il donnait l'envie aux gens de tenter l'expérience, quoi, voilà.
Vous, c'est lui qui vous a poussé à mettre le pied à l'étrier.
Pierre... Ah oui, complètement. Ah oui, oui.
Pierre Licia, oui, oui. C'est fou ce que nous dit Muriel. Moi, j'ai vu une émission de télévision et je me suis lancé dans l'import-export. On se dit quand même que c'est le cercle vertueux contagieux.
C'est un petit côté rêve américain, mais on a un peu perdu. C'est-à-dire que moi, en même temps que je vous écoutais, je me disais, mais est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des émissions comme ça qui donneraient à une jeune génération, des vocations comme ça d'entrepreneuriat? Je ne sais pas si ça existe aujourd'hui.
Non, il faut l'homme pour ça. Il faut la personnalité. idées qui génèrent et qui emmènent les gens avec. Or, aujourd'hui, d'abord, il a été... après, il a eu plein de... Dès qu'il est rentré en politique, de toute façon, tout le monde s'est abattu sur lui, etc. Peu importe. On parlera pas de politique aujourd'hui, mais vous n'avez aucune personnalité aujourd'hui, aucun leader qui vous donnera cette envie. Et puis, on vous demande tellement de papiers, tellement de trucs pour vous mettre à votre compte, pour vous lancer dans les affaires, que c'est plus possible. Vous ne l'avez plus aujourd'hui. Et puis les gens sont jaloux. Donc, dès que vous avez la réussite, mais même quelle qu'elle soit, petite, moyenne, grande, les gens sont jaloux. Regardez les réseaux sociaux, il est à peine mort que ça y est, on lui crache déjà à la gueule. Regardez la une de Libération, mon Dieu.
Oui, toutes affaires cessantes, ouais. Alors, c'est la une de Libération.
Alors ça, tout le monde était unanime pour dire que oui. Libération, c'était pas possible.
Non, oui, c'est vrai. C'est une certaine. Pour répondre sauf à Pierre... le rédacteur en chef de Libé qui a validé. Je dis ça comme ça.
Pour répondre à Pierre Licia, il a raison, hein, Pierre Licia. Bah, j'ai envie de dire, il n'y a plus aucune émission aujourd'hui, hein, par les concours de chant, les concours de cuisine, et voir des amourettes sur les plages de Marseille.
Les jeunes, c'est terrible. Les jeunes, maintenant, ils veulent être influenceurs et ils veulent être dans les télé-réalités.
Exactement. Ils veulent vendre du shampoing.
Voilà. Un peu violent. Des conneries, des machins. Ils se lancent à les vendre leurs produits et pas qu'ils les montrent la télé, voilà, parce que la vente, en plus, on n'a jamais parlé dans toute l'actualité de ce week-end, il a créé des écoles, Bernard Tapie, oui. Et il y a plein de gens qui sont sortis de ces écoles de formation avec des diplômes de vente, il a fait des bons vendeurs, hein, donc il faut mettre en avant ces choses-là, donc tous les gens qui à l'époque avaient un petit doute, qui n'osaient pas, ils se sont lancés. Je vous assure que c'était un manager, un leader qui a donné, suscité des envies. Ouais.
Non, mais de toute façon, Bernard Tapie, à l'époque, il vous a donné la force d'ouvrir votre société d'import-export. Et cette dernière année, ces deux dernières années, il a donné la force aux malades du cancer de se battre. Hein. Moi, j'ai lu beaucoup de témoignages de gens en chimiothérapie qui ont dit « Si je suis guéri, j'ai eu la force de me battre, c'est grâce au témoignage de Bernard Tapie. »
C'est vrai que ces témoignages avec la voix qui commençait à plus trop marcher, ça m'a rappelé à quelqu'un qui nous a quitté il y a 11 ans, le 31 août, je crois. C'était Laurent Fignon, lors de son dernier Tour de France, qui montrait un grand courage face à la maladie. Mais c'est vrai ce que dit justement Muriel. À l'époque, dans les années 80, quand on faisait une école de commerce, on disait qu'il fallait toujours faire du marketing parce que la vente, c'était considéré comme sale. Et tout Tapie a donné envie aux gens d'être vendeurs. Quand vous aviez un gamin en école de commerce, on disait « Non, mais il va faire du marketing parce que la vente, c'était considéré comme le VRP multicarte ventru qui buvait des coups avec ses clients au coin du bar en signant un bon de commande. » Et ça, je pense que, alors que quand on disait aux États-Unis « I'm a salesman, je suis un vendeur », c'était très valorisant. En France, c'était très dégradant, dégradant.
On a l'image du marchand de tapis.
Bah oui, c'est ça.
Le jeu de mots de Pierre Licia est excellent. Vous trouvez pas que c'est une réalité, Muriel, qui a valorisé le métier de vendeur?
Non, mais je vous assure que, moi, j'ai vécu. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, avec le recul, puisque je vous dis, j'ai 4 ans de moins que lui, nous, on a vécu les belles années où vraiment tout était permis, on pouvait oser, on pouvait se lancer, on pouvait faire des tas de choses. Aujourd'hui, oh mon Dieu, vous faites un maître, ça y est, entre les réseaux sociaux, entre les banques, entre ceci, entre cela, les papiers à remplir, alors là, c'est la catastrophe, même...
Muriel, vous avez encore votre société ?
Non, je suis à la retraite, hein, quand même.
Attendez, vous savez, il y a des gens qui travaillent jusqu'à très très tard.
Je continue à travailler, mais dans autre chose, hein, pour le plaisir. Hein.
D'accord, et ça a été une des plus belles expériences de votre vie, de monter une boîte ?
Ah, complètement. Alors, j'ai démarré au départ, je travaillais dans une entreprise. Hein, et comme j'avais atteint un niveau de responsable commercial, je pouvais pas aller au-delà, je me suis dit, attends, monte ta société. Voilà. Donc, on s'est mis à 3-4 associés qui avions un petit peu... Alors, quand j'ai un petit peu d'argent, c'était pas des millions, hein, faut pas croire. Et puis, petit à petit, on a monté une société d'import-export. Et puis ensuite, quand elle a bien marché, eh bien, on l'a revendue. Et puis ensuite, On a acheté deux Intermarchés et voilà.
Ah oui, bah écoutez, Muriel, bravo pour cette très belle réussite. Muriel de Béziers, on vous salue et c'était un bel hommage à Bernard Tapie parce que c'est vrai que...
Ah oui, je le remercie infiniment. Bon, et puis j'ai beaucoup de peine parce que c'est vraiment quelqu'un qui nous a donné... cette niaque, quoi, voilà.
Cette niaque, et bien vous avez encore une niaque, une pêche d'enfer, Muriel. On vous félicite et merci de votre fidélité au poste avec Sud Radio. On va quelques kilomètres au nord, allez, 80 kilomètres au nord à peu près, direction Montpellier. Bonsoir, Laurent.
Bonsoir, Philippe. Bonsoir à tous.
Bonsoir. Et vous pourrez parler d'Éric Zemmour. Et malgré la baisse dans le sondage qu'on a eu là il y a quelques instants, il est passé de 15 vendredi soir à 12% d'intention de vote lundi soir. Vous croyez que Zemmour peut arriver à l'Élysée et qu'il a une vague de soutien derrière lui ?
Ben, il faut croire qu'il puisse arriver au premier tour, hein, à passer le premier tour.
Oui, donc déjà avoir les 500 signatures, ouais. Oui.
Voilà, est-ce qu'il a des signatures par rapport aux 42 000 personnes qui peuvent en donner ? Et ensuite, comment le traiter de virus un peu, mais sans faire de virologie, mais enfin, les virus, nous sommes entourés de virus, nous en avons des milliards en nous et c'est bénéfique, les virus, sauf la Covid et la grippe et le rhume, enfin bref, sauf une poignée. Mais sinon, globalement, les virus, c'est bon. Donc, alors, là, c'est un très bon virus pour la politique. C'est très bon.
Et vous, oui. Vous pensez quelque part que, tiens, Pierre Licia, que Zemmour, il est en train, comme le disait d'ailleurs un auditeur qui nous appelait tout à l'heure au 0826-300-300, c'était Pierre de Pau, qui disait qu'il est en train de mettre un grand coup de pied dans la politique.
Moi, je me méfie un peu de ces... Comment vous dire ? Zemmour, c'est un peu un produit, alors ça va pas plaire, ça va pas plaire à beaucoup de monde, mais une sorte de produit marketing, de com, et surtout médiatique, parce que c'est quand même un bon client média, Zemmour. Bah,
il fait de la télé depuis 30 ans.
C'est un excellent client média. On sait que quand, si vous l'invitez dans une de vos émissions, l'émission va cartonner. Si vous lui réservez une interview, votre journal va cartonner. On sait que c'est un bon client média. Le problème, c'est que être aujourd'hui un bon client média ne fait pas pour autant de vous un bon président de la République. Et encore une fois, moi, je reste convaincu que là, on est dans la pré-campagne présidentielle. Les Français sont pas vraiment dedans. On ne sait pas qui propose quoi, qui se positionne comment. Aujourd'hui, Éric Zemmour, il comble un vide à droite. Le vide laissé notamment par les Républicains qui n'ont toujours pas de candidat à ce stade. Et je pense que quand viendra le moment où les Français se diront « Attendez un moment, parler de l'islam, de l'immigration, du grand remplacement des frontières, c'est bien beau, mais nous, on veut savoir ce qui nous reste à la fin du mois, qui vient répondre à nos problèmes du quotidien, les augmentations des prix de l'électricité, la sécurité, l'école, l'éducation, l'enseignement supérieur, la santé. » Voilà. Quand on va commencer à parler des vrais sujets qui préoccupent aujourd'hui les Français, je ne suis pas persuadé que ce produit marketing un peu de Zemmour, je me trompe peut-être, mais que ce produit tienne la route. Parce que, encore une fois, avec Zemmour aujourd'hui, il a une force, c'est qu'il impose, il impose ses thèmes. Et il ne se positionne et il n'intervient que sur ses thèmes de prédilection. Je les ai cités, hein, l'islam, et l'immigration, il y en a deux, l'immigration, voilà. Le grand remplacement. Voilà. Et en fait, il décline l'ensemble de ces sujets, de ces analyses, au regard de ces quatre grandes thématiques qu'il connaît bien, qu'il maîtrise bien, parce que il a une rhétorique toute faite. D'ailleurs, beaucoup d'arguments d'autorité, hein, sur l'immigration, sur l'identité, beaucoup d'arguments d'autorité. Ce sont même pas des sujets sur lesquels il vient apporter une argumentation concrète. Il part d'un postulat qu'il en fait une vérité. Et à partir de ça, il décline. Donc forcément, il est puissant sur ces sujets-là. Mais dès lors qu'il va falloir rentrer dans l'atmosphère de la campagne présidentielle et des sujets qui intéressent les Français au quotidien, je pense que la fusée Zemmour va se désagréger aussi vite qu'elle
n'est pas. Mais attention, parce qu'on sait très bien que l'élection présidentielle est une élection à part et qu'on vote aussi beaucoup pour une personnalité, pour un homme, plutôt que pour des thèmes.
Et de toute façon, je crois qu'il y a une chose, je vous redonne la parole tout de suite, Philippe Rossi. Les Français ont été tellement pris pour des jambons sur les programmes électoraux où on a fait exactement le contraire. Sarkozy a promis le Karcher et il a mis Kouchner. Et ensuite, Hollande a promis que la finance était son ennemi. Il a fait la loi travail, qu'aujourd'hui, les promesses électorales, comme les gens savent qu'elles n'engagent que ceux qui les reçoivent.
Et si Zemmour n'était pas un vote de contestation comme les Marine Le Pen, des Français qui ont été aussi peut-être déçus du débat de Marine Le Pen, le fait qu'elle ait peut-être un peu dédiabolisé son parti et qu'il se retourne vers Éric Zemmour.
Justement, on va faire réagir Laurent. Ce week-end, et on va faire réagir les vraies voix, Éric Zemmour a dit à Lille que la diabolisation, je le cite, il s'en foutait. Est-ce que quelque part, il ne fait pas du Trump 6 ans après aux États-Unis, à peu de choses près, où Trump, plus il était lynché par les médias, plus il en remettait des couches et plus il montait.
Oui, non, mais diabolisation, c'est un terme qui ne veut rien dire non plus. La diabolisation de qui, de quoi. Donc, non, ce n'est pas le diable, Zemmour, regardez-le bien. Bon, il a de grandes oreilles, mais ce n'est pas le diable, quand même. Hein.
Mais, comme disait, mais justement, est-ce qu'il ne joue pas là-dessus en disant plus on est transgressif, Macron, il y a 5 ans, est très, très transgressif, qu'on le veuille ou non. Est-ce qu'il n'a pas compris une chose, c'est que plus il est transgressif, plus il risque de monter et qu'il joue cette carte à fond.
Non, moi je pense qu'il n'est pas transgressif. Il soulève des sujets qui intéressent beaucoup de monde. La preuve, c'est qu'on va on l'écoute. Donc s'il s'en intéressait personne, eh bien, personne ne l'écouterait. Donc il n'est pas du tout transgressif. Bah,
sur les prénoms, sur les prénoms, il est transgressif quand même.
Pas du tout. Il répète la loi française qui a existé jusqu'en 1988 ou 98, je ne sais plus. Donc, à l'époque, ce n'était pas transgressif, mais ce n'est plus d'actualité. Lui revient un peu dans le passé pour cette affaire. Bon, c'est un marqueur comme un autre d'intégration. D'accord. Ce n'est pas son cheval de bataille, les prénoms. Ce n'est pas ça. Lui, c'est vraiment l'immigration massive. Hein. Il ne faut pas tout mélanger. Voilà.
Pierre Alicia.
Mais oui, ben voilà.
Être transgressif, ça peut aider dans une campagne. Regardez Trump.
Mais bien sûr. Mais attendez, on a déjà voté en 2017 pour un candidat transgressif qui n'avait pas de programme. On ne va pas le refaire deux fois, peut-être. Venez de dire, finalement, vient conforter ce que je disais. C'est qu'effectivement, on a une personnalité non candidate encore qui se positionne sur des sujets dont il affectionne particulièrement, et donc c'est les prénoms sur l'intégration, sur l'autorité à l'école. Mais les constats que fait Éric Zemmour, et c'est en ça qu'à la fois je vous rejoins et que je suis pas d'accord avec vous, les constats qu'il fait, les sujets qu'il soulève, finalement tout le monde est en capacité de les soulever, mais aujourd'hui quelles sont les solutions qu'il apporte? Et c'est en ça que je vous dis que faire un bon polémiste ne fait pas de vous un bon président de la République.
Ça, c'est un vrai sujet. On aura le temps d'en débattre sur Sud Radio, puisque, je vous le rappelle, l'élection présidentielle est dans 6 mois. Merci à vous, Laurent de Montpellier. Merci à vous, Muriel de Béziers, d'avoir été les vraies voix du jour. Merci, Pierre Licia.
Mais merci de votre accueil.
Patché Salouté, comme vous êtes corse.
À Salouté.
Et maintenant, quel est le menu des vraies voix de la politique, mon cher Philippe Rossi?
Les vraies voix qui font bouger la France. Non, pas du tout, pas du tout. Les voix de la politique avec Nicolas Corato dans un instant et Maxime Thibault. Évidemment qu'on va reparler d'Éric Zemmour. Évidemment, est-ce qu'il peut être au second tour, alors rester le troisième homme? Est-ce qu'Éric Zemmour n'est simplement pas un phénomène médiatique? On vous pose la question sur les réseaux sociaux et vous nous appelez pour réagir au 0826 300 300. Puis on reviendra dans les voies de la politique sur le campus, voilà, le congrès de La République En Marche. Il ne faut plus dire LREM maintenant, mais il faut dire majorité présidentielle.
Ah oui.
Voilà, quel avenir pour LREM et quel avenir pour LREM avec Édouard Philippe qui met un petit peu son grain de sel. On va en parler aussi dans cette émission, mais dans l'immédiat, il est question de votre patrimoine sur Sud Radio, immobilier, finance, gestion de patrimoine. Voici Conseil de famille avec Stéphane Moller.